Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet 2017 et nous enregistrons l'épisode 56. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tech Café, un épisode estival où l'actualité n'est pas forcément toujours très débordante et très propice en nombreuses annonces. On a quand même des tendances et des sujets qu'on va vous relayer et sur lesquels on va pouvoir un petit peu débattre. Et comme tout bon Tech Café, je suis accompagné de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Mais ça va bien, et toi ?
Ça va très très bien. L'été est là, même si en Picardie, tu sais, l'été, ça se résume au fait d'avoir moins de pluie que les autres jours, mais bon, c'est quand même toujours ça de pris. Et puis c'est bientôt les vacances, mais en attendant, toujours sur le pied de guerre pour Tech Café. Vous le savez d'ailleurs, pour réagir pour Tech Café, vous connaissez maintenant les endroits incontournables pour réagir et nous faire vos remontées sur techcafé.fr dans les commentaires de l'épisode, sur Twitter @techcafé_fr et sur Facebook, la page Facebook de Tech Café où on a des personnes qui sont pas d'accord avec nous sur la vision qu'on a de l'émulation, c'est intéressant. Et puis n'oubliez pas également que vous pouvez déposer un avis sur iTunes, ça nous permet évidemment de faire remonter Tech Café dans les classements, et puis surtout ça permet d'avoir un feedback. J'ai un petit peu un aperçu de cette manière-là de ce que vous pensez de l'émission, en bien ou en mal, et c'est un petit peu tout l'intérêt du dispositif du catalogue de podcast iTunes. Je vous rappelle aussi que Tech Café voit être propulsé par un Tipeee, un financement participatif Tipeee, ça s'écrit T-I-P-E-E-E. Vous pouvez aller chercher Tech Café donc sur Tipeee, et je vais d'ailleurs remercier Tari Rock et Stéphane qui ont rejoint le Tipeee de Tech Café. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup à tous les tipeurs qui contribuent. L'idée, c'est de pouvoir participer dès 1 euro par épisode au soutien de ce travail qui est fait derrière Tech Café. Donc merci beaucoup à vous. Si jamais vous avez l'occasion de jeter un petit coup d'œil, peut-être que ça pourrait valoir le coup de regarder si vous n'avez pas envie de donner de la valeur à cette émission. Sans être en forme de procès, on va passer tout de suite aux news, ou en tout cas aux tendances. La première, c'est encore une fois subtilement nommée par Guillaume Poggiaspala, réalité toute mélangée. Il y a une tendance, et je vais essayer de décrire un petit peu ma perception des choses qui est partagée par plusieurs personnes qui suivent un peu la tech, et puis tu me diras si tu as perçu la même chose, et évidemment ce que tu en penses, Guillaume, de ton côté. J'ai vu pas mal de démos remonter sur la base de vidéos depuis l'annonce d'iOS 11 à la keynote Apple, donc à la conférence pour les développeurs, d'ARKit, donc qui est avec des mots simples, une ressource pour les développeurs. C'est une API qui permet de développer des interactions sur la base de réalité augmentée. Alors réalité augmentée, ce qu'il faut s'imaginer si vous n'avez pas encore vu ce que c'était, je pense que vous avez vu ce que c'était, et si vous interrogez sur le terme, vous saviez pas que c'était ça, mais c'est grosso modo le fait de pouvoir filmer et d'avoir cette superposition d'éléments en 3D qui va augmenter la réalité avec des informations supplémentaires. On en a tous vu de manière différente, avec des usages différents. Et là, les nouveautés avec cette version d'ARKit dans la version d'iOS 11 qui va arriver cet automne, ce sont des grandes facilités pour nous amener de la réalité augmentée plus stable, et vraiment des vidéos qu'on peut voir passer sur internet de ce que s'amusent à en faire les développeurs. Il y a des choses qui sont extrêmement bluffantes. Alors il y a des choses qui sont assez triviales et de l'ordre de quelque chose de ludique, comme par exemple le fait d'avoir une table sur laquelle se sont disposés, ce qui est disposé en gros un terrain de jeu vidéo sur lequel peuvent s'affronter des armées. Donc vous avez dans votre salon votre table du salon qui peut supporter un affrontement d'armées futuristes. Vous avez des guidages en réalité augmentée. Donc imaginez-vous avoir le même trajet que sur votre appli de guidage habituel avec un trait de couleur, mais ce trait vous le voyez à travers votre smartphone physiquement dans dans la rue et donc vous avez plus qu'à le suivre pour être guidé. Il y a des choses qui sont plus ou moins utiles. Alors dans les choses pas utiles mais quand même assez poétiques, il y a la possibilité de faire apparaître la lune dans votre salon avec notamment les équipes américaines qui s'étaient posées sur la lune, donc de pouvoir visualiser ça de manière plus ou moins crédible parce que les échelles sont pas bonnes, mais c'est quand même très très impressionnant d'imaginer avoir une espèce de grande sphère comme ça dans son salon qui représente la lune. Il y a des simulations de stationnement de voitures, et puis il y a le truc complètement incontournable qui risque d'être très pratique si jamais il est de la précision telle qu'elle est annoncée dans les vidéos, c'est le fait de pouvoir dérouler un mètre et de mesurer simplement en posant votre smartphone de manière à visionner par exemple un meuble, puis vous allez tracer avec votre doigt une arête de ce meuble pour mesurer la distance d'une arête de ce meuble, en tout cas de côté. Et puis il y a ces démonstrations qui vont encore, à mon sens, hein, dans ma vision de non-développeur plus loin, c'est quand on commence à nous faire apparaître un panneau façon miroir dans lequel on nous laisse entreapercevoir une fenêtre vers un autre monde, et la personne qui tient le smartphone va carrément plonger dans cette fenêtre, arriver dans l'autre monde, se retourner et voir simplement la fenêtre vers le monde réel. C'est assez difficile à décrire de manière très précise comme ça à l'audio, mais évidemment, je vous invite à aller regarder les notes de l'émission. Et en tout cas, je vois une vraie tendance sur ces technologies-là, des technologies qu'on découvre pas là, puisqu'on en a déjà eu des aperçus à travers soit des réalités augmentées moins stables, moins précises, ou très convaincantes, telles que l'HoloLens. Là, on arrive sur quelque chose qui a l'air, de l'aveu des développeurs, très séduisant en termes de plateforme pour créer des choses, des nouvelles choses. Guillaume, est-ce que tu as vu, j'ose imaginer que oui, toutes ces vidéos. Est-ce que je suis un petit peu naïf de trouver ça excitant, ou est-ce que toi aussi ça t'excite, et est-ce que tu as des infos sur ce que ça apporte concrètement pour les développeurs en termes de facilité de développement, ça?
Écoute, moi je te dis, un portail qui t'emmène comme ça vers le monde de AA, c'est quand même extraordinaire. Ouais, parce que le truc que tu décris, enfin, je sais pas si c'est la même vidéo, mais moi j'avais une vidéo où, au milieu du salon du gars, il y avait une porte vers le clip de Take On Me. Avec le mec en 3D qui non seulement le mec en 3D danse, mais le mec peut aller dans ce monde, tourner autour du mec, et dans le monde du mec, tout est crayonné, comme dans le clip. Enfin, c'est vrai que c'était vraiment, vraiment, vraiment bluffant.
Elle n'est pas dans les notes de l'émission, cette vidéo. D'ailleurs, il faudrait qu'on rajoute le lien. Effectivement, il y en a deux, en fait, qui sont assez bluffantes. Celle-ci, effectivement, est peut-être la plus bluffante,
ouais. Oui, bon, il y en a une autre aussi où le mec prend son smartphone et découpe une porte dans une porte de garage, donc au chalumeau, avec un chalumeau virtuel. Et quand, donc la porte tombe virtuellement, à l'intérieur, il y a une jungle. C'est vrai que c'est assez joli. Je dois avouer que enfin, techniquement, je trouve que c'est vraiment très très impressionnant. En fait, ce qui est peut-être le plus impressionnant techniquement, c'est même peut-être pas ça. J'ai vu un gars un développeur sans doute, hein, qui prenait son smartphone et qui larguait des petits chats dans son open space.
Oui, elle y est dans les notes de l'émission.
Donc il largue des petits chats, mais il en largue des dizaines, des centaines peut-être de petits chats dans tout son open space. Il se balade dans tout son open space et les petits chats restent exactement au même endroit. Et il peut se balader autour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il se superpose sur l'environnement et ils disparaissent derrière les obstacles et tout. Il y a vraiment des petits chats. Et
pourtant, mais il y a une mémoire de la position. Hein,
mais c'est ça qui est impressionnant, je trouve. Ouais. Il y a une vraie grosse mémoire de la position locale. Et bon, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est quand même très abouti. Que c'est avec, si tu veux, les progrès des capteurs, des puces, voilà, maintenant on arrive à faire ce genre de truc. Il a fallu quand même attendre un petit moment parce que clairement la réalité augmentée, ça fait un moment qu'on en a, mais d'une qualité qui est pas extraordinaire. En grande partie parce que tout simplement pour faire de la bonne réalité augmentée, il faut des capteurs très précis. Il faut pas juste une caméra, quoi. Il faut des caméras doubles avec des capteurs de profondeur qui soient très rapides aussi pour maintenir une bonne synchronisation. Il faut les puces derrière pour gérer tout ça. Il faut suffisamment de mémoire. Bon, voilà. Il y a tout un ensemble de choses, si tu veux, tout un ensemble de conditions qui sont désormais réunies. En tout cas, dans certains smartphones haut de gamme, pour donner ce genre de d'expériences qui sont d'une qualité assez bluffante. Alors après, au niveau des usages, par contre, j'ai du mal à voir quelque chose qui soit vraiment ultra utile. Alors tu as parlé du guidage, bon, pourquoi pas. Il y a certains, il y a plein de cas où ça devrait être, tu vois, où ça devrait être utile, voire ludique. Il y a, voilà, tu peux, effectivement, tu peux faire apparaître une poupie, tu peux faire apparaître Hatsune Miku dans ton salon, tu peux faire apparaître très probablement d'autres types de modèles tout à fait sexy dans ton salon. Je ne doute pas que ce type d'application
ça va venir.
Ouais, voilà, puisse contribuer à augmenter la, l'attrait de la réalité augmentée. Mais au-delà des, de ces usages qui sont quand même très impressionnants, mais aussi très gadget, je sais pas exactement s'il va y avoir quelque chose pour le grand public de, comment dire, de nécessaire, tu vois, quelque chose dont les gens ne pourront plus passer une fois qu'ils y auront goûté. Je suis pas complètement certain, tout simplement parce que, pour un usage ponctuel, bah, effectivement, tu prends ton smartphone et tu le pointes et tout ça, mais il faut le garder, tu vois, il faut le maintenir devant ses yeux. C'est un petit peu contraignant, c'est pas la même chose qu'avoir un casque de réalité augmentée, des lunettes et ce genre de trucs, par exemple, où là, tu vois vraiment tout le temps, tu vois, autour de ce qu'il y a autour de toi. Du coup, c'est très impressionnant, et je pense effectivement que tout le monde va plus ou moins s'y mettre, mais il y a quand même deux gros obstacles, je pense, pour l'instant. Hein. C'est d'une part, le manque de smartphones compatibles, parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire de la réalité augmentée de cette qualité avec un smartphone qui n'est pas équipé pour.
Notamment double lentille, puisqu'il va bien.
Exactement. Par exemple, chez Google, ce genre de truc, c'était Projet Tango. Avec Projet Tango, on peut faire de la réalité augmentée de cette qualité. Et il faut un smartphone compatible. Il faut voilà, un truc qui puisse voir en 3D, etc. La plupart des smartphones ne le peuvent pas pour le moment. Donc il va y avoir, si tu veux, ça va être assez lent à mon avis, parce que de la réalité augmentée, de la qualité standard, c'est pas extraordinaire, ça a jamais vraiment pris. Et même pour le jeu vidéo, hein, la 3DS est capable de faire de la réalité augmentée, la Vita aussi, il y a eu très très peu de titres, et encore moins de titres marquants. Je sais même pas s'il y en a eu, en fait. Donc voilà, tu vois, la réalité augmentée de Pokémon Go, c'est rigolo, mais c'est un peu nul. Voilà, c'est pour l'instant, ça n'est vraiment au balbutiement. Je pense tout simplement parce que techniquement, il faut quand même des smartphones qui soient faits pour ça, quoi. Et donc ça va prendre du temps, à mon avis. Après, est-ce que c'est l'avenir? Bah, écoute, c'est possible. Je veux dire, les doubles caméras, ça devient de plus en plus courant, c'est un peu la tendance. Après, il faudra quand même attendre quelques années, hein.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, l'idée c'est vraiment de se dire effectivement qu'il y a une prouesse sur le plan du développement. Après, effectivement, tu soulèves des questions que je me soulève aussi. C'est les usages. Il y a quand même des trucs qui moi me sautent aux yeux et qui me sautent dans le cerveau à ce moment-là. C'est typiquement l'éducation. C'est moi qui me plains. Bon, j'ai changé depuis, mais à l'époque quand j'étais plus jeune, je me plaignais facilement de la façon dont m'était enseignée l'histoire géo. Moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir un prof qui me rendait ça vivant, qui me rendait ça excitant, et c'est avec beaucoup de regret parce que c'est des thématiques qui aujourd'hui m'intéressent et sur lesquelles je trouve énormément de ressources, notamment en vidéo sur YouTube. Il y a énormément de ressources sur l'histoire ou même sur les sciences en général, hein, qui sont complètement captivantes et très ludiques. Je pense que l'éducation a beaucoup à plonger là-dessus. Imagine que en gros un prof d'histoire explique à ses élèves de manière à ce que tout le monde soit en cercle autour d'une grande table au centre d'une salle de classe, qu'il explique des batailles, des mouvements, qu'il y ait des cartes animées en réalité augmentée. Ça peut paraître, à mon avis, être quelque chose qui ajoute quelque chose à de la simple vidéo, qui permet d'avoir quelque chose d'immersif et qui, je pense en termes de pédagogie et d'apprentissage, pourrait être très sympa. Et je pense pas que ce soit simplement du gadget. Après, t'as raison.
Tu vois, je me posais la question de savoir si pédagogiquement il y avait une différence entre projeter une scène de bataille sur la table de classe ou projeter une scène de bataille sur un écran, tout simplement un écran, un grand écran, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une différence en termes de pédagogie? C'est-à-dire, est-ce qu'on, tu vois, alors oui, peut-être qu'on peut tourner autour, tout ça. Bon, je sais pas si c'est vraiment cardinal comme différence, mais peut-être.
C'est sans doute.
En tout cas, ce serait cool. C'est ça.
Forcément, comme tout ce qui est cool, au bout d'un moment, ça ne le sera plus. Et comme la vidéo aujourd'hui, ça peut être moins intéressant. Mais si demain, Et vraiment, quand je dis demain, c'est à la rentrée scolaire de septembre. Les profs d'histoire géo disposaient d'un outil comme ça, ils auraient un outil extrêmement excitant, je pense, pour les élèves, pour faire passer plein de notions. Mais évidemment, c'est quelque chose de nouveau, donc ça durera peut-être pas longtemps derrière. Moi, je me disais spontanément que c'est quelque chose qui aurait pu me plaire, et puis peut-être c'est une vision très très naïve du sujet. Bah, dites-nous en commentaire si jamais c'est des usages qui aujourd'hui pourraient vous convaincre. En tout cas, ça pose la question. Si on se pose vraiment du côté d'Apple avec une technologie telle que celle-ci qui est apportée, ben tu l'as dit, hein, porter son smartphone en permanence à bout de bras pour viser quelque chose, pour y mettre de la réalité augmentée, c'est pas hyper captivant. Aujourd'hui, il y a des choses comme le HoloLens de Microsoft qui sont quand même des grosses machineries qui proposent de faire, allez, grosso modo, je caricature énormément, mais grosso modo la même chose que cette interaction AirKit, mais évidemment pas avec le même champ de vision, pas avec la même réactivité, la même fréquence, etc. Mais est-ce qu'Apple va pas tout simplement proposer des lunettes qui exploiteraient ça et qui feraient que justement t'aies plus besoin d'avoir un smartphone compatible, mais tu as une paire de lunettes qui serait capable de tirer parti de ces ressources d'AirKit et qui serait capable de t'apporter ce service-là sans que tu aies besoin d'acheter un smartphone à 1000 balles. Est-ce que ça te paraît crédible? Et sinon, est-ce que tu as d'autres acteurs en tête qui pourraient tirer leur épingle du jeu pour proposer des dispositifs techniques sur la réalité augmentée?
Alors, c'est intéressant que tu aies donné l'exemple de la salle de classe parce que du coup, c'est un contexte professionnel encore. C'est pas un contexte grand public finalement, tu vois, c'est un contexte précis,
j'y crois pas, moi,
professionnel.
Pour le...
Et du coup, ce qu'on voit plus ou moins pour la réalité augmentée, enfin avec des lunettes si tu veux, avec casque, c'est que pour l'instant, c'est plus vers le monde professionnel que ça s'oriente. Si tu regardes par exemple tu parlais de HoloLens, typiquement HoloLens c'est quelque chose qui est très cher et qui donc n'est pas qui est réservé aux professionnels quoi, qui est pas accessible vraiment au grand public. Du coup, on peut se poser la question de savoir si Apple serait capable de faire mieux ou aussi bien que Microsoft à un prix qui soit vraiment accessible au grand public. Les Google Glass, on se souvient, c'était aussi très cher. Et moi, à l'époque, je me souviens de t'avoir dit, bon, c'est très bien, c'est comme si t'avais une sorte de viseur tête haute, comme les pilotes de chasse. Sauf que la question, c'est est-ce que t'as besoin de viseur tête haute pour piloter ta vie? Eh bien, la réponse, apparemment, c'est pas vraiment, parce que autant les Google Glass ont été elles ont été distribuées assez peu, si tu veux, mais ça n'a pas réellement eu un engouement incroyable. Il y a même eu, il y a des gens qui ont été carrément hostiles même à ce genre de truc. Et là où par contre elles ont été utilisées avec profit et où elles vont retourner, c'est justement dans le monde professionnel. Il y a énormément d'entreprises qui ont été précurseurs là-dedans. Par exemple, General Electric, en 2014, a fait des tests avec les Google Glass et avec des logiciels particuliers qui ont été développés par Upskill, ont permis aux mécaniciens de gagner une efficacité de 8 à 12% en projetant des vidéos, des animations et des images directement sur la réalité pour pas qu'ils aient à se détourner de leur travail pour aller voir de la documentation ou des trucs pour d'apprentissage quoi. Il y a une cinquantaine d'entreprises en fait hein, avec DHL, Boeing, Volkswagen qui ont employé Glass. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Glass revient, mais elle revient en Enterprise Edition. Tu vois, donc avec c'est une version qui est un petit peu améliorée hein, avec un écran de 640x360 avec le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth, tout ce que tu veux, un petit peu tout amélioré si tu veux, avec plus de mémoire, avec une batterie aussi un petit peu plus importante. Par contre, clairement, c'est pour les professionnels. Il y a des cas d'usage, par exemple, donc il y a des gens qui travaillent, c'est AGCO, donc ils fabriquent des machines agricoles dans le Minnesota, et ils utilisent les Google Glass pour éviter aux employés de faire des allers-retours, si tu veux, pour, par exemple, aller voir des checklists, ou aller voir des manuels. Et comme ça, ils ont réduit le temps de production d'une machine de 25% et le temps d'inspection par 30%. Chez DHL, c'est un petit peu la même chose. Ils utilisent les employés reçoivent des paquets, ils doivent les ranger à certains endroits et ils peuvent, grâce au Google Glass, recevoir des informations en temps réel sur où les paquets doivent être placés. Et avec ces aides visuelles, ça permet d'aller un petit peu plus vite et ils gagnent sur toute la chaîne environ 15%. Même les docteurs, les toubibs, peuvent utiliser le Google Glass puisque avec les fonctions de dictée, quand ils discutent avec un patient, ils n'ont plus besoin d'écrire. Ils regardent le patient et Google Glass s'occupe d'enregistrer la communication et de la discussion et de la transcrire directement. Donc il y a de la valeur ajoutée tu vois, pour justement les professionnels, des valeurs ajoutées que je vois pas aussi intéressantes, disons pour le moment, pour les particuliers, d'autant que il est pas encore possible de fabriquer des casques de réalité augmentée qui soient légers, voilà, légers technologiquement au point et abouti, et suffisamment peu chers pour les usages récréatifs que peut en avoir un particulier, tu vois. Donc pour l'instant, je vois pas ça pour le grand public du tout. Je vois ça plutôt pour les professionnels. Après, Lenovo, par exemple, a dévoilé un casque qui s'appelle Daystar, donc Daystar avec un grand A, qui donne aussi un champ de vision de 40 degrés. Donc c'est
ça,
pas
c'est hyper important, hein, le champ de vision. Effectivement, on sait que dans la réalité augmentée, c'est un des trucs clés. Enfin, il y en a beaucoup qui critiquent le champ de vision de l'HoloLens. J'ai pas la chance de tester, mais en gros, on s'imagine qu'il y a sur ton champ de vision une fenêtre sur laquelle apparaissent les éléments en réalité augmentée. Dès que tu détournes un peu le regard et que ton champ de vision est plus dedans, tu perds les éléments en réalité augmentée, ce qui ça perd son intérêt, quoi.
Ben oui, c'est exactement, hein, le 40 degrés. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, alors est-ce que ça va être de la même qualité, parce que tu vois aussi ce qu'ils appellent les hologrammes, c'est des choses qui vont être superposées à la réalité, et du coup ça peut être un petit peu fantôme, ça peut être un petit peu pâle. Bon, ça dépend des conditions d'éclairage aussi, sans doute.
Ouais.
C'est des choses qui sont, à mon avis, au tout début, et pour le moment, seuls ceux qui peuvent en tirer vraiment profit, je pense, vont les utiliser. Et de mon point de vue, c'est plutôt les pros. Bon, on verra bien.
Ouais, non, c'est clair. En sachant quand même, précision, hein, Google Glass, on est d'accord pour dire que c'est pour le coup pas de la réalité augmentée. C'est
pourquoi pas.
Alors, enfin, là au stade où ils en sont, est-ce que c'est considéré comme de la réalité augmentée, en sachant que moi, dans la perception, j'ose pas dire dans la vision que j'en ai, et de ce que j'en
d'accord.
ai compris, mais
oui,
c'est un élément dans le coin de ta vision qui rajoute des informations. Donc certes, c'est augmenté, mais finalement, c'est comme si t'avais un petit picture in picture dans ton champ de vision humain, qui te donne des infos, ce qui est quand même, je trouve, moins immersif et moins prometteur que ne le font les usages qu'on voit dans les vidéos que je listais au début, là. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est pas faux. Bah, c'est vrai que c'est plus du côté d'HoloLens pour les usages qu'on voyait. C'est HoloLens est capable de faire exactement pareil sur un champ de vision, voilà, comme tu disais. Pour les Google Glass, on va dire que c'est juste que le champ de vision est encore plus faible, si tu veux. Mais bon, moi, c'est vrai que pour moi, réalité augmentée, dès que tu superposes des informations supplémentaires à la réalité, pour moi, c'est la réalité augmentée.
Ouais, alors, ok.
Question, voilà, ça dépend comment tu le vois, c'est vrai.
C'est une sorte de définition. Moi, je le classerai pas dedans, mais je comprends, c'est légitime de le classer dedans aussi, en fonction du point de vue. Et puis, alors, il y a un truc qui est hyper handicapant aussi pour la démocratisation. On peut imaginer, même dans le monde professionnel, ce genre de truc. C'est les câbles. Là encore, évidemment, ils ont dit, hein, chez Microsoft, qu'ils travaillent sur des versions itératives de HoloLens. Alors, je sais pas si c'est dit officiellement ou si c'est des infos qui ont fuité. Dans tous les cas, c'est tout à fait logique. Des HoloLens, c'est-à-dire plus portable et qui nous libérerait un petit peu de toutes les contraintes qu'il y avait, notamment telles qu'elles étaient décrites dans les premières démos. On sait aussi, ceux qui ont testé le PSVR, l'encombrement que peut générer le fait de faire de la réalité virtuelle avec la PS4, au niveau des câbles, de l'encombrement, etc. Il y en a qui bossent, tu l'avais relevé, hein, là, il y en a qui bossent sur du sans fil. Là, pour le coup, c'est sur des casques tout en un, et sans fil d'ailleurs, et ça relève de la vraie prouesse technologique, là, pour le coup.
Oui, non, bah, disons que c'est la grande tendance. Le truc, c'est qu'effectivement, on a envie de couper le cordon, parce que c'est vrai que c'est un des trucs les plus chiants avec la VR, c'est clairement tous les câbles qui sont partout. Bon, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est compliqué, parce que si tu coupes le câble d'alimentation, il faut une grosse batterie, donc c'est emmerdant. Si tu coupes le câble de HDMI, quoi, globalement, bah, le câble vidéo, il faut avoir recours à des trucs radio, des émetteurs, des récepteurs radio qui sont assez puissants. Bon, c'est un petit peu compliqué aussi. En plus, on peut focaliser les trucs, mais si tu focalises les trucs, alors il faut pas passer. Enfin, tu vois, il faut pas qu'il y ait d'obstacles. Il y a tout un tas de petites emmerdes techniques qui font que le plus simple, finalement, c'est encore de tout intégrer dans le casque et puis on ne parle plus, quoi. En tout cas, c'est une solution. Évidemment, le problème quand tu fais ça, c'est que tu ne peux pas mettre un processeur très puissant. Tu vas t'orienter vers des processeurs de mobile. Et du coup, bon, ben voilà, c'est un petit peu ce que font, ce à quoi ont pensé HTC et Facebook, qui donc ont planifié de faire. Alors, donc HTC et Facebook, c'est marrant parce qu'ils ont déjà leur propre casque, hein, évidemment. Donc HTC a le Vive et Facebook donc a son Oculus. Le HTC, alors bon, faut savoir qu'HTC à l'heure actuelle, ils sont un petit peu emmerdés parce que ils ont été le casque le plus populaire, en grande partie aussi parce que il y avait donc ces fameuses manettes directement dans le pack, ainsi que un système room scale où tu pouvais te déplacer et être repéré de manière submillimétrique dans toute une pièce. Donc ça, c'est vrai que c'était assez puissant par rapport à Facebook qui avait un repérage beaucoup moins précis, pas de room scale et même pas de manette. Si tu veux, c'est vrai que c'était quand même pas mal. HTC était plus cher, mais ça se comprenait vu la différence de fonctionnalité. Aujourd'hui, les tendances sont complètement inversées puisque Oculus a beaucoup baissé ses prix. Je crois qu'ils sont à $400 avec les manettes, alors qu'HTC, je crois qu'ils sont toujours au même prix, ce qui fait qu'ils ont ils sont en perte de vitesse quoi. Enfin, en tout cas, Facebook veut vraiment reprendre des parts de marché, il semblerait, sur Vive.
$400, on est sur de l'ordre du tout à fait imaginable. Encore aujourd'hui, la Switch et un jeu, c'est 400 balles, quoi. Donc, donner des repères de pouvoir d'achat, ça devient carrément réaliste, quoi.
Si vous avez déjà un PC qui peut donc faire tourner des jeux en VR, ça devient envisageable, absolument. Ça commence à devenir pas mal. Alors, le truc, c'est que ça s'arrête pas là, hein, parce qu'ils savent très bien que toujours 400€ plus le gros PC, ça fait quand même relativement cher. Ouais. HTC aussi. C'est pour ça qu'ils s'orientent vers des casques qui sont moins chers, plus grand public et en général tout un an. Et donc HTC comme Facebook donc vont lancer des casques de ce type-là, donc tout un an. Alors HTC, ce sera basé sur un Snapdragon 835, ce qui est un processeur haut de gamme de mobile, donc voilà, de haut de gamme tout simplement, probablement avec un écran Quad HD directement intégré, hein. Donc en fait ce que vous aurez plus ou moins, ce sera une sorte de Gear VR, mais avec l'écran directement intégré quoi. C'est un petit peu pareil pour Facebook qui normalement dévoilera son modèle à $200, donc wireless toujours, en 2018. Alors bon, c'est il a pour nom de code Pacific. Pour le Rift, évidemment, c'est marrant. Oui, ça fait rire que moi, le Pacific Rift, ça fait rire que moi, peut-être, mais bon,
enfin, moi, mourir de rire, on va dire. Ça rigole.
Et voilà. Et donc, ils auront effectivement la possibilité de faire ce genre de truc. Alors, il y a un autre acteur dont on parle très peu, mais qui est pas trop sur le même sujet, là, mais enfin, puisqu'on parle de casque VR, il y a GameFace qui a dévoilé un casque EP1 qui a de très très bonnes specs, hein, deux écrans de Quad HD par contre, avec 120 degrés de field of view à 90 Hz, avec aussi un... Donc l'écran est intégré évidemment, mais où il y a aussi un processeur à l'intérieur qui est un Tegra, qui à mon avis est pas très loin du truc de la Switch, de la puissance de la Switch, et qui lui a la particularité d'être compatible avec absolument tout. C'est-à-dire qu'il est compatible non seulement avec les jeux Vive, les jeux Oculus, mais aussi les jeux Daydream, c'est-à-dire les jeux VR Android. Et c'est intéressant parce que un des gros problèmes de la VR aujourd'hui, c'est la fragmentation, quoi. C'est ça qui ralentit aussi, je pense, le truc, c'est que bon, bah, si vous voulez développer un jeu VR, faut le développer trois fois ou presque.
Ah oui. Donc, oui
ce serait bien, en fait, effectivement, d'avoir un casque qui soit compatible avec tout. Et c'est le cas de GameFace. Alors, ils sont complètement inconnus pour le moment, et là, ce qu'ils veulent, c'est donc développer des casques pour les professionnels, pour les développeurs, qui seront justement, dont le but sera vraiment de faire ça, c'est-à-dire, ce seront des casques qui permettront de développer sur les trois plateformes finalement, sans aucun problème. Et ils ont le room scale, voilà, ils ont tout, en fait ils ont voilà le truc complet de tout le monde, comme ça vous n'avez pas acheté trois casques mais seulement un. Bon, ça partira à partir des $500 et jusqu'à $700 pour le modèle plus évolué. Bon, à voir. En tout cas, c'est un des trucs, si tu veux, qui pourrait faire décoller la VR, ou qui pourrait encourager en tout cas les développeurs à se lancer.
Et ce qui est quand même curieux avec cet appareil, J'ai du mal à concevoir comment est-ce qu'ils peuvent y arriver, tu vois, à proposer quelque chose qui soit universel. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient de débarquer et qui a dit non, mais vous prenez pas la tête. Moi, j'ai un outil qui vous permet de développer votre jeu à la fois sur PC, Xbox One, PS4. Si jamais vous voulez prendre en compte la Switch, c'est possible. Et accessoirement, tiens, on vous fait tourner sur Linux, quoi. Enfin, j'ai du mal à comprendre, et ma question est peut-être là encore naïve ou traduit une vraie méconnaissance de ma part. Mais j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent permettre de développer développer quelque chose ou de faire fonctionner quelque chose qui soit en gros, enfin qui permette de lutter contre cette fragmentation et prendre en compte l'Oculus Rift, l'HTC Vive et autres. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bah en fait c'est parce qu'ils ont adopté une technologie. Bah, comme ils sont arrivés, ils arrivent plus tard, hein, puisque là ils vont commencer à essayer de vendre leurs produits. Ils ont un produit qui a les capacités de tout le monde. C'est-à-dire ils ont des senseurs. Comment ils s'appelaient ça? Lighthouse, je crois. Ils ont les senseurs de type HTC pour faire du home scale, donc c'est possible. Ils ont un capteur Leap Motion pour faire du hand tracking directement dans le casque aussi.
D'accord.
C'était aussi dans leur prototype. Peut-être que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Donc c'est comme RealSense, c'est-à-dire c'est une caméra 3D qui a devant le casque qui permet de voir en 3D ce que voit le casque finalement, et donc si tu passes tes mains devant, tes mains sont digitalisées, peuvent être intégrées directement dans le truc. Et donc voilà, et comme ils sont à 90 Hz, ils ont une résolution qui excède celle des deux casques, et comme ils fonctionnent aussi sur une puce Tegra, ils peuvent faire fonctionner ça sur Android, et du coup ça devient aussi il y a aussi la possibilité de développer pour Daydream puisque ils sont sur Android aussi. Alors en fait c'est plutôt du Vive, c'est plutôt de quand tu développes là-dessus, c'est plutôt tu développes plutôt pour Vive, et puis tu peux passer par un utilitaire qui te permet de passer ça en Oculus. Et la compatibilité Daydream elle est offerte grâce à Android en fait, qui tourne dedans.
D'accord. C'est très malin, bravo à eux, c'est très malin. On va clore notre tour de piste sur la réalité augmentée. Un petit mot quand même sur le ce que pourrait permettre la VR au Japon, qui pourrait, tu le notais en préparant l'émission, amorcer un renouveau de l'arcade au Japon. Ça va mal l'arcade au Japon, hein, comme partout.
Alors ça va un peu moins mal qu'ailleurs, je suppose, parce que
ça fait partie de la culture quand même là-bas.
Ici, il y a encore quelques salles. Il y en a une à Lyon d'ailleurs, mais il y en a pas beaucoup, il y en a pas énormément quoi. Et puis c'est vraiment réservé à un public de niche. C'est vrai qu'au Japon, il y en a quand même plus. Ça reste un petit peu ancré, mais c'est beaucoup moins qu'à la grande époque. Et donc pourquoi est-ce qu'on va dans une salle d'arcade? En tout cas, pourquoi on allait dans une salle d'arcade? Pourquoi le grand public allait dans une salle d'arcade à l'époque? C'était
pour jouer à des
surtout
auxquels on n'avait pas accès chez soi.
Exactement, pour en prendre plein les yeux, pour exactement avoir une expérience que tu pouvais pas avoir chez toi. Et la VR, c'est exactement ça, parce que c'est très rare que tu aies la possibilité d'avoir un gros PC avec un Vive et une pièce entière qui soit dédiée à ça pour pouvoir te déplacer comme il faut.
Tu m'étonnes.
Et donc ça, tu peux le trouver tout simplement, moyennant finance, à Shinjuku, tu peux le trouver ça. Donc c'est un bar VR arcade qui est soutenu par Bandai Namco. Et ils font de la VR, et ils le font bien, en fait, apparemment. Et donc, ils ont un certain nombre de jeux, avec en plus des gros titres, des grosses licences. Ils ont Mario Kart Arcade, Dragon Ball VR, Master of the Kamehameha, Evangelion VR, et ils ont même un Gundam VR. Et ils ont aussi quelques autres expériences, de type tu voles, tu fais des trucs, voilà. Et tout ça, c'est relativement cher. Enfin, en tout cas, il y a un pass de $40 qui donne accès à 4 jeux. Et je crois qu'il y a un ticket d'entrée à $8 en plus. Donc, ça fait relativement cher parce que 4 jeux, ça doit faire 2 heures, un maximum, hein, entre 2 et 3 heures, je pense, de jeux effectifs. Donc, bon. C'est plus cher que le cinéma, on va dire, mais enfin, c'est aussi une expérience différente, quoi. C'est aussi moins cher que Euro Disney, et on va en parler après, sans doute. Donc, ce qui est vachement intéressant, c'est que je pense que c'est complètement naturel, de mon point de vue, de mettre l'arcade. Son but, c'est de montrer, tu vois, la pointe de la technologie, de t'en mettre plein la tronche, et la VR, elle est faite pour ça, je pense. Donc, du coup, vraiment, je pense que les Japonais tiennent le bon bout, et que la VR, c'est naturel pour l'arcade. Ça commence à arriver en France avec des expériences donc à Paris, hein, qui sont pareilles, relativement chères, mais assez impressionnantes, plutôt réussies. Pas aussi ambitieuses que celles du Japon, mais voilà, j'espère que ça va venir en tout cas, parce que moi ça m'intéresse bien.
Ouais, c'est excitant. Alors justement, tu parlais de Disney, qu'on clôt effectivement cette rubrique VR.
Je ne sais pas si tu as vu ça, mais Disney, c'est Westworld en vrai. Mais non, ça y est. En tout cas, c'est leur but. En 2019, ils projettent d'ouvrir 2 hôtels, donc à Disney World et à Disneyland. Je sais pas, mais je crois que c'est surtout le premier sera à Disney World, donc en Floride. Et c'est un hôtel Star Wars qui sera non seulement un véritable décor de cinéma, où vous vous déplacerez intégralement dans un décor de Star Wars, vous serez habillés comme des gens, comme des personnages de Star Wars, et vous en rencontrerez partout. Il y aura des acteurs, absolument partout, qui seront costumés et qui vous proposeront des expériences, enfin des quêtes, exactement comme dans un jeu vidéo, et vous pourrez les suivre ou pas. Si vous suivez les quêtes, vous serez amené potentiellement à croiser des héros de la série, à faire des tours en Millennium Falcon, et éventuellement à prendre des quêtes, enfin à avoir des trophées ou ce genre de choses. Et vous serez complètement immergé dans l'univers Star Wars pendant que tout le temps que vous resterez dans l'hôtel. Donc c'est Westworld sans droïdes. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des robots, bien entendu, ce sont des humains, mais mis à part ça, c'est exactement le même concept. C'est quand même extrêmement ambitieux et écoute, c'est tentant, je le dirais.
C'est super tentant, en fait, pour tout te dire. Ça n'est pas sans m'évoquer une de mes passions que j'ai depuis pas mal de temps, pour lequel j'ai déjà pris la parole à plusieurs reprises, mais le jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle sur table, avec ta vraie feuille de personnage, ton vrai crayon à papier, ta vraie gomme, ta vraie BD, etc. Et ceux qui connaissent ou s'intéressent un petit peu au jeu de rôle savent qu'il existe toute une catégorie du jeu de rôle qui s'appelle le grandeur nature, où tu te retrouves dans des environnements à taille réel, on va dire, avec des costumes qui sont censés représenter une forme de réalité, et puis plein de codes pour jouer à ce jeu de rôle grandeur nature. Et là, on est dans le saint graal de tout rôliste qui aime les grandeurs nature, je pense. C'est en fait, bon, tu te dis d'ailleurs, qu'est-ce qui fait, à part la folie des grandeurs de Disney et la magie de Star Wars, que ça n'a pas été mis en place avant, mais ouais, c'est quelque chose qui, moi, spontanément, m'excite énormément plus que de la réalité virtuelle. Enfin, c'est de la réalité virtuelle, comme tu le notais, analogique, quoi. C'est de la réalité virtuelle réelle, et je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de faire une murder party là-dedans, en tout cas. Assez excellent. Voilà, on a fait un tour de piste sur la réalité virtuelle augmentée / analogique. J'espère que ça vous aura intéressé et j'espère que ça aura permis de faire peut-être écho à si, comme nous, vous voyez toutes ces news tomber sur la réalité augmentée, virtuelle et ses avancées, essayer d'y voir un petit peu plus clair, et essayer de se forger un petit peu sur une opinion sur ce que ça pourrait donner. Il y a un autre aspect qui touche à la virtualité. Quoique, ça va être tout l'objet de notre discussion à venir, c'est l'intelligence artificielle. Le point de départ de cette rubrique, de cette deuxième rubrique de cet épisode 56 de Tech Café, ça a été la passe d'armes verbale entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Ça a commencé par une prise de parole d'Elon Musk, comme il en fait assez régulièrement. Il était venu s'exprimer devant une trentaine de gouverneurs américains, et bien entendu, il a pris la parole sur plein de sujets qui lui sont chers parce que c'est évidemment l'activité de ces boîtes. Il parlait d'ailleurs au passage, même si c'est pas l'objet de la rubrique, on peut revenir sur le fait qu'il considère toujours, tu m'étonnes, que les véhicules seront tous autonomes, que les véhicules produits aux États-Unis seront tous autonomes dans 10 ans et qu'il sera rare d'en trouver un qui ne le sera pas dans 10 ans. En fait, j'ai tendance à vouloir partager et même à être assez convaincu de ce qu'il avance, même si l'échelle de 10, 15, 20 ans à l'échelle des différents pays est peut-être pas si évidente que ça. Mais enfin, je pense qu'à une génération d'écart, il sera devenu assez anecdotique de voir les gens conduire. On verra si ça se vérifie ou pas dans quelques épisodes de Tech Café. Mais évidemment, il s'est aussi exprimé sur, une fois de plus, l'intelligence artificielle et sur la crainte qu'il ressent et qu'il identifie par rapport à l'avenir de l'intelligence artificielle. En gros, il est en train de dire, quand on se rendra compte que c'est dangereux, l'intelligence artificielle, quand on se rendra compte qu'il y a des dangers, il sera trop tard. Et donc, il est grand temps, avant même de se rendre compte que c'est un danger, de mettre en place les actions qui vont bien pour s'en prémunir. Et c'est d'ailleurs, on en avait parlé dans d'autres épisodes de Tech Café, qu'il avait fondé notamment un collectif OpenAI en 2015 qui vise justement à travailler et à réfléchir sur ces aspects-là. Il y a d'ailleurs d'autres consortiums dans lesquels d'autres entreprises, dont Apple d'ailleurs, participent sur des réflexions et des travaux d'études sur l'intelligence artificielle. Et en gros, il dit, je reprends un peu les propos qui ont été traduits sur Numérama, hein, mais tant qu'on ne verra pas des robots descendre dans la rue pour tuer des gens, ils ne sauront pas comment réagir face à l'intelligence artificielle car elle semble trop impalpable. L'intelligence artificielle est l'un des rares cas où nous devrions agir avec une réglementation préventive plutôt que réactive, car à mon sens, au moment où nous devenons réactifs dans la réglementation de l'intelligence artificielle, il est déjà trop tard. Alors, il y a eu quelque chose d'assez alarmiste là-dessus. C'est pas la première fois qu'il prend la parole sur le sujet, mais là où c'est assez intéressant, c'est qu'il y a un certain Mark Zuckerberg qui, au cours d'un live devant un barbecue dans son jardin, a lui aussi pris la parole de manière assez décontractée, on va dire, et lui évoque non seulement une position assez différente qui est de dire non, c'est pas dangereux, non, ça ne le sera pas, mais qui dit aussi que c'est complètement idiot de vouloir s'en inquiéter et de considérer ça comme dangereux. Elon Musk, d'ailleurs, pour revenir sur les propos qu'il tenait, disait que c'était un danger, c'était une plus grande menace, l'intelligence artificielle, loin devant les accidents de voiture et la drogue, ce qui là encore met en lumière le fait que ce sont des inquiétudes qui effectivement sont pas très tangibles pour les gens, parce que si aujourd'hui on leur demande de choisir, si on nous demande de choisir entre le plus grand danger entre l'intelligence artificielle et les accidents de voiture, je pense que les gens choisiront plutôt les accidents de voiture. Et en tout cas, Mark Zuckerberg, lui, dit qu'il a des opinions très fermes sur le sujet, qu'il est optimiste, et il dit que, là pareil, hein, je cite la traduction, je pense que les détracteurs qui essayent de susciter ces scénarios de fin du monde, évidemment, il veut parler d'Elon Musk, juste, je les comprends pas. C'est vraiment négatif, et d'une certaine manière, je pense même que c'est assez irresponsable. Alors, ces deux visions de l'innovation qui s'affrontent, deux visions de l'intelligence artificielle, et d'aucun facilement critique dirait, d'un côté il y a un mec qui crée des voitures autonomes qui veut envoyer des gens sur Mars, et l'autre qui a fait un relooking de copains d'avant. J'ai plutôt envie de croire le premier, et pourtant c'est pas si simple, parce qu'on parle, mais ça on va en discuter ensemble, Guillaume, juste derrière, d'une espèce de confusion derrière l'idée même d'intelligence artificielle. On commence à parler de EA watching, juste pour dire qu'il y a espèce de lavage de cerveau autour de l'idée d'intelligence artificielle. Guillaume, on lance le débat. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou est-ce que tu es plutôt Mark Zuckerberg? Et surtout, est-ce que tu ne peux pas avoir un avis un peu nuancé par rapport à tout ça?
Ouais, alors moi, si tu veux, si la question c'est est-ce que l'intelligence artificielle est dangereuse, il faut déjà faire deux choses. Il faut se demander qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on entend par dangereuse. Et donc, ça fait remercier emmerdant, vu que la phrase c'était trois mots. Bon, il va falloir s'y coller, quoi, parce que, en fait, je sais pas exactement de quoi on parle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'intelligence artificielle, c'est vrai que, alors, tu parlais de AI ou de IA washing. C'est-à-dire, on la met, grosso modo, on la met à toutes les sauces. Un peu tout devient intelligence artificielle. Bon, voilà, tant que dès qu'il y a du big data et des algorithmes, c'est de l'intelligence artificielle. Bon. Qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, effectivement, tout le monde en ce moment travaille sur l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, on parlait d'HoloLens tout à l'heure. Bon, ben voilà, tu as raison. Il y a un nouveau casque HoloLens qui va arriver. Et ce casque HoloLens, il aura un HPU, c'est-à-dire un Holographic Processing Unit, puisque comme son prédécesseur, le HPU2, et ce HPU2 aura la particularité d'avoir une puce neurale. Bon, une puce neurale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'il y a dedans, il y a une puce spécifique qui sera optimisée pour traiter, grosso modo, des réseaux de neurones et des algorithmes de machine learning. Du côté inférence, c'est-à-dire, voilà, par exemple, je sais pas, reconnaître un chat, ou reconnaître un visage, reconnaître ce genre de trucs. En fait, tout simplement le faire de manière plus efficace pour essayer de drainer, enfin, au moins drainer la batterie. Apple fait la même chose. Dans son prochain, on sait. Il y a de grosses présomptions comme quoi Apple serait en train de fabriquer, en train de concevoir une puce qui pourrait même être une puce indépendante, même pas intégrée au A11, qui serait là pour justement, et pareil, exactement pareil, pour accélérer un certain type de traitement mathématique. Et ces types de traitements mathématiques seraient très utilisés dans des algorithmes d'apprentissage machine. Mmh. On sait que Google a ses TPU, on sait qu'Intel a racheté Movidius, et qu'aujourd'hui vous pouvez acheter chez Intel une clé USB à $80, et que cette clé USB, si vous la mettez sur votre PC, elle vous donne accès à quelque chose comme 100 gigaflops, je crois, de calcul Mais là encore, c'est des calculs mathématiques, hein, tout simplement, ces calculs mathématiques qui permettent d'accélérer certains algorithmes. Tout le monde s'y met, voilà, tout le monde commence à faire, voilà, même ceux qui font que du logiciel, hein, ceux qui sont traditionnellement des sociétés software, se mettent à faire des puces qui accélèrent leurs propres algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Mais c'est, en fait, c'est juste des algorithmes, c'est tout. C'est tout ce que font les PC aujourd'hui, par exemple reconnaître l'écriture manuscrite, reconnaître la voix et la transcrire, localiser des visages dans une photo ou reconnaître des objets. Mais il y a 20 ans, ça se faisait déjà. Il y a peut-être même 30 ans, certaines choses se faisaient déjà. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que il y a des algorithmes qui ont évolué, les machines ont évolué, et du coup, aujourd'hui, toutes ces choses se font de manière beaucoup, beaucoup plus efficace. Et les ordinateurs sont devenus bien meilleurs à faire certaines tâches qui sont traditionnellement plus humaines, comme par exemple reconnaître un visage ou un chat dans une image. Mais pour l'instant, ce sont des algorithmes. C'est exactement comme si vous demandez à un ordinateur de... C'est la même chose, je veux dire. Il y a aucune... Quand on dit intelligence artificielle, il y a intelligence.
Bon. On a déjà beaucoup parlé de ça, hein, d'ailleurs, dans d'autres épisodes, sur cette notion d'intelligence artificielle qui peut vous dire rien.
Dans un café ou une chronique des composants, on avait déjà dit. Bon, voilà, intelligence artificielle, en fait, c'est juste du machine learning. Et le machine learning, ça veut dire que c'est un type d'algorithme particulier. Ces algorithmes, ils sont faits de telle manière que l'ordinateur apprend à faire une tâche spécifique de manière très efficace par l'apprentissage, par l'exemple, que ce soit supervisé, pas supervisé, ce genre de choses. Mais c'est tout. Donc, en fait, votre ordinateur est capable de vous dire si un nombre est premier ou pas. Ça fait peur à personne. C'est un algorithme qu'il fait. Bon, ben, quand il reconnaît votre visage, ben, c'est aussi un algorithme qu'il fait. C'est un algorithme différent qui a été entraîné sur des sets de données, tout ce que vous voulez. Mais c'est pareil, c'est un algorithme. Il n'y a pas de volonté derrière. Il n'y a pas d'intelligence au sens humain derrière. Et ça, ce sera pas le cas avant très longtemps. Mmh. À l'heure actuelle, il y a personne qui ne sait, ne serait-ce que définir la conscience, ne serait-ce que définir la volonté, les émotions, définir ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, que nous sommes des humains. Donc, est-ce que si on, enfin tu vois, si on, je suppose, hein, ça c'est, je suppose qu'Elon Musk parle donc d'une super intelligence qui d'un coup deviendrait dangereuse pour les humains parce que
je pense qu'il parle pas des algorithmes qui permettent de différencier les chatons des chiens.
Bah voilà, mais bon, si tu veux, si tu commences à parler de Terminator globalement ou d'un truc de ce type-là,
c'est clairement ce qu'il a sous-entendu. Ouais.
On en est mais très 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 loin. Ouais, alors, on n'est pas à 10 ans de ça, on n'est pas à 20 ans de ça, on est à bien plus que ça, parce que pour l'instant, il y a des questions de base scientifiques qui sont complètement sans réponse.
Je sais que je vais pas y arriver, hein, de me mettre dans la peau d'Elon Musk, lui, ce qu'il est en train de dire, en fait, finalement, je l'interprète comme ça, si tu veux. C'est pas tant une vision technologique ou d'expertise sur ce sujet-là, même si c'est d'ailleurs un des arguments qu'il rétorque quand il y a eu la prise de parole de Mark Zuckerberg, lui derrière, il dit oui, j'en ai parlé à Mark, il est loin de se rendre compte du sujet, enfin, en gros, je sais plus quels sont les termes exactement, mais en gros, il a pas toutes les cartes en main pour comprendre le sujet. Il laisse sous-entendre que sa réflexion, elle est pas tant d'expertise technologique, mais presque philosophique, de se dire que tu as raison, on en est très loin, mais ça va aller à une vitesse telle que le jour où on en sera moins loin, il sera trop tard. Alors tu vois, il y a quelque chose de très...
Ce que j'aimerais faire, c'est injecter un petit peu d'humilité dans tout ça. Ah. C'est-à-dire que, qu'il est certain qu'on va réussir à fabriquer des intelligences de niveau humain et suprahumain, c'est absolument pas clair. Est-ce qu'on va réussir à les fabriquer? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va réussir jamais à les fabriquer déjà? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va réussir à les fabriquer dans les 20 ans qui viennent? Je pense que c'est carrément illusoire. Je pense que c'est pas du tout à notre portée pour le moment. Et même si c'était le cas, la fiction, qui a déjà imaginé ce scénario des milliers de fois, nous apprend que tout est possible et que les intelligences artificielles qui sont supposément suprahumaines ne vont pas forcément se retourner contre nous. Il peut tout arriver. En plus, c'est nous qui allons les fabriquer. Donc il y a gros à parier qu'elles auront les mêmes qualités, les mêmes problèmes que nous. Tu vois. Mais si tu veux, cette idée de on va forcément fabriquer un cyberdieu, parce que c'est plus ou moins ce que... Enfin, si tu veux, c'est ça que craint Elon Musk en réalité. Il craint des entités suprahumaines qu'on aurait fabriquées qui nous éclatent la gueule. Bon, Ça veut dire que on est notre destinée de fabriquer des cyberdieux. Non, c'est un scénario de science-fiction.
Il laisse même sous-entendre, et c'est d'ailleurs pour donner des éléments à la thèse que tu défends, que je rejoins au passage, hein, je préfère dire tout de suite que j'alimente la discussion, mais je suis totalement d'accord avec toi sur la perception des choses. Est-ce que c'est pas Elon Musk qui laissait sous-entendre qu'on était probablement dans une réalité alternative qui était elle-même contrôlée par des êtres plus puissants? Non, je...
Oui, si. Bah, en fait, c'est la théorie de la simulation. Ah, c'est, voilà. C'est une théorie physique qui est invérifiable, qui, je pense, c'est invérifiable, hein, qui dit que on a 99% de chances d'être dans une simulation qui est exécutée par des entités supérieures. Pourquoi 99%? Ça, il y a tout un argumentaire là-dessus qui est plus ou moins fumeux, parce que de toute façon c'est invérifiable. Donc autant dire que voilà, on est le SimCity de Dieu. Voilà. Si t'as envie d'imaginer qu'on est le SimCity de Dieu, c'est ton truc, hein, y a pas de problème. Moi, je m'en fous, très honnêtement. Mais le truc, c'est que voilà, déjà, est-ce qu'on va être capable de fabriquer des cyberdieux? C'est pas clair. Est-ce qu'on va ne serait-ce qu'avoir envie d'en fabriquer? Mais c'est pas clair non plus. Là, je veux dire, on peut très bien fabriquer des petits machins qui suffisent, ou des trucs qui ont une intelligence comparable à la nôtre. Et puis voilà, tu vois, tout est possible. Encore une fois, la fiction nous présente une infinité d'avenirs possibles, et je pense que c'est ça. On ne peut pas savoir ce qui adviendra dans un siècle. Et tout est possible. Mais penser comme ça, si tu veux, que dans 10 ou 20 ans, on va se retrouver avec une singularité technologique qu'on va se faire balayer dans les 10 années qui suivent, je pense que c'est complètement du fantasme. Néanmoins, je suis quand même d'accord sur le fond du fond, parce que après, il y a aussi deux visions politiques qui s'affrontent dans... qui sont assez... c'est assez paradoxal, parce que Elon Musk est connu pour être border libertarien, et c'est lui qui propose de faire des régulations. Alors que Zuckerberg, lui, qui reste droit dans ses bottes, ne veut absolument pas entendre parler. Or, pour le coup, je suis plutôt du côté Elon Musk. C'est-à-dire que, effectivement, l'argent se fout de l'humanité. Les actionnaires se foutent de l'humanité. En réalité, le fric, le profit se fout de l'humanité. Complètement. Donc, il roule pour lui-même, tu vois. Il fonctionne en vase clos. Si on veut que les humains aient leur mot à dire, il faut l'imposer. Donc, imposer des régulations à l'intelligence artificielle, pourquoi pas? Je trouve que c'est, comment dire, c'est très très précoce, on va dire, mais pourquoi pas? Mais c'est juste parce que, philosophiquement, je suis plutôt de cet avis en général. C'est-à-dire qu'il faut effectivement réguler pour ne pas que tous les excès possibles soient faits avant que on intervienne, tu vois. Donc, paradoxalement, je pense que Elon est complètement dans son délire, mais je suis plutôt de son côté quand même.
En gros, tu adhères à la philosophie, mais tu n'adhères pas à l'homme de paille qui se tue au fond, quoi.
Je pense que faire des régulations, je pense que partager au maximum et réfléchir en commun sur ce qu'on fait des algorithmes, c'est toujours bon. C'est toujours bien. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est ça la régulation, si la régulation c'est se poser et réfléchir, je trouve ça super. Voilà.
Ouais, ça fait jamais de mal.
Du point de vue de Mark Zuckerberg qui dit non, mais il faut y aller, de toute façon, la compétition, c'est l'innovation, on va tous se tirer à la bourre, on va faire n'importe quoi et on sortira des trucs super. Je suis un peu convaincu.
C'est pas ses propos, hein.
Je suis interprète.
Ouais, t'es considéré que c'est ton intention, mais
je suis interprète un petit peu, si tu veux, mais c'est vrai que voilà, moi c'est plutôt cette idée philosophique du on se pose, on réfléchit, on partage, on fait des choses ouvertes où tout le monde peut contribuer, on fait des sommets où on échange, tout ça c'est très bien en réalité. Donc si c'est ça, réguler les l'AI, très bien, faisons-le, et puis on pourra même le faire sur d'autres plans, quoi.
On peut d'ailleurs en profiter quand on parlait d'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup de notions, encore une fois. Moi, j'en démords pas. Je trouve que le terme d'intelligence artificielle est vraiment mauvais.
On a notre... Mais je pense que, tu vois, alors, désolé de te couper, mais c'est vrai qu'on a vraiment aussi notre... Alors, la presse en général, et nous-mêmes ici, là, tout de suite, on a aussi notre responsabilité un petit peu dans cette espèce de délire. L'intelligence artificielle fait des pas de géant. Hier, elle était capable de lire votre écriture manuscrite. Aujourd'hui, elle reconnaît votre chat. Demain, elle va vous planter un couteau dans le dos. Bon. C'est aussi parce que, effectivement, dans la presse, on lit des trucs comme, par exemple, Google développe l'imagination des algorithmes. C'est ce que j'écris dans le conducteur. Google développe des algorithmes imaginatifs, des agents capables de faire d'utiliser leur imagination pour être plus efficaces. Alors, évidemment, ça fait fantasmer. Tu vois? Quand on dit, voilà, donc c'est DeepMind, hein, donc une filiale de Google, hein, qui, le labo de Google, qui a publié un papier. Sur lesquels, enfin, dans lesquels ils décrivent une manière de donner de l'imagination aux agents. Aux agents, style aux agents IA, aux agents intelligence artificielle. Bon. Donc effectivement, tu vois, tout de suite, évidemment, c'est plus joli, c'est plus poétique, et surtout, c'est hyper anthropomorphique, et ça fait rêver, et ça peut faire cauchemarder. Voilà. Ça y est, les ordinateurs commencent à avoir de l'imagination, qu'est-ce qu'ils vont imaginer, tu vois. En réalité, l'imagination, ça veut juste dire imaginer le futur et se servir des futurs possibles que tu as imaginés pour faire le meilleur choix lorsque tu feras ton action dans le monde réel. Bon, les ordinateurs d'échecs font ça depuis les années 70. Les ordinateurs d'échecs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils voient le plateau d'échecs, ils imaginent différentes configurations, ils prennent celle qui paraît la meilleure et puis c'est fini. Voilà, ils ont de l'imagination. AlphaGo, qui joue au Go et donc qui a battu, ne faisait pas autre chose. Il le faisait dans le cas du Go, donc il était obligé de le faire de manière beaucoup plus maligne que ça parce qu'il y a une explosion combinatoire qui a moins dans les échecs, mais c'est pareil, il imagine des trucs aussi, c'est pas exactement la même chose. Et donc, ce qu'ont fait nos chercheurs en intelligence artificielle, sans minimiser du tout leur travail, hein, c'est juste que c'est pas forcément ce qu'on imagine, quoi. Eux, ils ont entraîné des agents, ils ont, avec des nouveaux algorithmes où qui permettent, un petit peu comme dans le cas d'AlphaGo, d'imaginer les futurs possibles des configurations futures possibles dans des contextes qui sont très imparfaits, des contextes fluctuants, des contextes trop compliqués, si tu veux, pour qu'on puisse mener une recherche exhaustive, voilà, ou quasi exhaustive. Et donc ils ont par exemple fait un agent qui a joué au Sokoban. Ah oui, tout de suite ça fait moins, tu vois, c'est moins violent, quoi. Il y en a un autre qui a piloté un vaisseau sur un petit truc en 2D où il fallait qu'il évite de se cracher sur de petites planètes toutes rondes. Voilà, c'est aussi un jeu vidéo, hein, tout simplement. Et donc, ils ont essayé leur truc, et ils ont trouvé que leur méthode était meilleure que les recherches de Monte Carlo, par exemple. Donc ça veut dire deux choses. D'une part, que les robots ont une imagination qui est... voilà, pour l'instant, ça va, quoi, c'est pas très effrayant. Et que d'autre part, il y a d'autres méthodes qui sont capables de faire que les ordinateurs puissent jouer à ces trucs-là. Il y a d'autres méthodes de jouer au Sokoban que de faire des intelligences artificielles. Hein. Et ça fait peur à personne. Ce sont des algorithmes aussi. Ils sont juste moins efficaces. C'est tout. Tu vois? Donc, il y a, je pense que voilà, enfin, tout ça pour, après, on peut parler, tu pourras parler aussi, si tu veux, des robots photographes, des intelligences artificielles photographes que tu avais notées. Mais tout ça pour dire que la manière dont sont présentées les choses ont aussi une grande importance.
Ouais, tout à fait. Il y a pour faire un petit rebond sur ce que tu parles sur le plan de l'anthropomorphisme, je vous invite bien entendu à aller écouter la chronique des composants numéro 25. Tu parlais de deep learning, un des points d'entrée. D'ailleurs, ça se retrouve sur l'illustration. Très bien choisi cette couverture. Je sais pas qui l'a fait, mais elle est très très bien faite. Qui reprend les travaux des intelligences artificielles entre guillemets, hein, des travaux de Google sur le sujet, où on nous parlait à l'époque du fait que les intelligences artificielles de Google arrivaient à rêver. Et donc arriver à générer des images de rêve, et donc voilà, on avait creusé un petit peu avec toi la façon dont ça se comprenait, dont ça s'interprétait, et ce qu'il fallait vraiment y comprendre. Et il y avait tout un dossier sur l'intelligence artificielle, le deep learning. Donc voilà, ça date de l'an dernier, mais ça reste parfaitement d'actualité. N'hésitez surtout pas à les regarder. La note, je l'avais mise, Guillaume. J'ai pas bossé cette news. Je vois tout à fait ce à quoi tu fais référence. C'était comment exploiter grosso modo les images de Street View, mais je l'ai pas en détail. Si tu veux en toucher un mot, vas-y.
Oui, bah c'était là, si tu veux, c'était développer le sens esthétique, encore une notion qui est extrêmement humaine, tout simplement, sur les photographies. Et donc oui, il y a des c'était Google aussi, hein, je sais plus exactement si c'était un labo particulier, mais donc ils ont utilisé du machine learning pour essayer de retoucher, faire de la retouche de photos automatique. de manière plus efficace. Retouche photo, c'est globalement, c'était choisir la composition, donc quelle est la meilleure partie d'une photo, et puis régler la saturation, l'exposition, rajouter des effets HDR sur une photo pour lui donner un look professionnel. Et donc ils ont fait des algorithmes qui s'entraînent, tout ça, qui s'entraînent à reconnaître, si tu veux, quelles sont les caractéristiques d'une photo que les pros jugent belle, et ensuite ils l'appliquent. Et bon, effectivement, les images qui sont les images d'exemple, hein, qui sont en illustration, sont très réussies. Cela dit, finalement, les photos qu'ils jugeaient eux meilleures, en tout cas qui avaient les meilleurs scores pour l'algorithme, 40% ont reçu des notes qui étaient de pro à semi-pro par justement des photographes professionnels. Alors on va dire que c'est déjà pas mal. C'est plutôt efficace, enfin c'est que 40% déjà, tu vois. Mais bon, encore une fois, là, on n'est pas dans... on commence à apprendre le bout des notions qui sont extrêmement, voilà, presque, enfin, très abstraites, hein, et très philosophiques presque, à des robots. C'est pas du tout ça, hein. C'est juste qu'on a des algorithmes auxquels on demande de déterminer sur des panels, des batchs d'exemples, les caractéristiques, tu vois, fondamentales qu'ils peuvent extraire de quelque chose, ben, par exemple une photo bien exposée ou une photo bien composée, et ensuite de le refaire sur des images qu'ils n'ont pas vues. Et c'est tout. C'est déjà très bien, tu vois. Donc le truc, c'est que il faut pas minimiser le travail des chercheurs, parce qu'il y a beaucoup de recherches et elles sont très pointues et elles sont très importantes et elles auront des applications ou elles ont déjà des applications importantes. Et donc, si tu veux, ce sont des choses qu'il faut pas minimiser. D'un autre côté, il faut pas non plus imaginer des choses folles, parce que quand on les décrit en termes non mathématiques, non professionnels, on est obligé de prendre on est obligé de le faire en utilisant un langage qui peut prêter, si tu veux, à la rêverie, qui peut prêter à l'exagération, qui peut prêter à l'anthropomorphisme. Et bon, bah après, évidemment, ça peut susciter un certain nombre de fantasmes.
Ouais, en voulant vulgariser, en rendant les choses anthropomorphiques, finalement, on en arrive à trop faire dériver l'info, quoi, c'est clair.
Écoute, on verra. Peut-être que dans le Tech Café 857, je ne dirai pas la même chose.
Peut-être qu'on sera en train d'enregistrer dans une cave et que les robots circuleront à l'air libre et que nous, on sera obligés d'être sous terre, tu sais, on fera peut-être pas les malins. Parce que justement, on parle d'intelligence artificielle, mais quand on veut greffer encore un peu plus d'angoisse sur ce type de notion, on y rajoute un aspect robotique. Et il y a des robots qui ont commencé, oui, vous vous en rendez pas tout à fait compte encore, mais des robots qui ont commencé à envahir votre intérieur, c'est notamment les aspirateurs robots, Guillaume.
Oui, et alors le plus grand danger des aspirateurs robots, finalement, c'est pas qu'ils vont vous sauter dessus, vous prendre à la gorge et vous saigner comme des lapins. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que le fondateur de Roomba, ou l'ex-fondateur de Roomba, a émis l'idée que leur dernier modèle était tellement perfectionné qu'ils étaient capables de faire une espèce de cartographie de votre maison. Et du coup, ça leur fait des données cartographiques, des photos cartographiques de l'intérieur des maisons des gens. Et ça, eh ben, c'est de la data, et de la data, ça se vend. Et il aimerait bien les proposer aux GAFA, n'importe lequel, le plus offrant, et qu'ils puissent en faire des choses extrêmement utiles, comme, je sais pas, déterminer la distance qui sépare votre canapé de votre télévision, pour ajuster je ne sais pas quoi. Toujours est-il que, est-ce que dans l'avenir, votre robot, parce que alors voilà, le truc c'est que il faut déjà qu'ils en soient capables. Hein. Tous les robots Roomba n'en sont pas capables, mais la plupart des nouveaux modèles d'aspirateurs robots sont très 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 sophistiqués. Il y en a qui ont même des télémètres laser. Hein. Les derniers ont des télémètres laser. Le dernier de Neato a un télémètre laser. Le dernier de LG a deux caméras. Enfin bon, c'est vraiment ça commence à devenir des trucs vraiment sophistiqués. Et il est possible que parmi les trucs sur lesquels vous cliquez sans réfléchir au début, vous savez, là, les conditions générales d'utilisation, il y ait le truc permettre d'envoyer la cartographie de votre appartement à Google, machin, truc, et voilà, cliquez ici. Bon, voilà, ça c'est en fait le principal danger que pourraient poser les robots qui pourraient coloniser votre maison, c'est peut-être pour votre vie privée, c'est peut-être sur votre vie privée qu'ils pèsent.
Du moment, ça vaut le coup quand même de surveiller ça, d'où l'intérêt d'écouter avec intérêt chez Constat Café. Peut-être une petite conclusion pour revenir à la passe d'armes entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Il y a quand même un espèce de consensus de spécialistes, d'experts qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui tendent à discréditer un petit peu l'inquiétude, comme d'ailleurs tu l'as fait sur la représentation in fine de ce que pourrait donner l'avenir de l'intelligence artificielle selon Elon Musk et de l'interprétation qu'il en fait. Et c'est justement de dire que, effectivement, non seulement c'est un scénario, on évoque des scénarios improbables et très pessimistes du sujet, mais ils mettent effectivement en lumière énormément ce problème de d'IA washing qui vise vraiment à mettre en lumière le fait que dans les articles, c'est bien ce que tu décrivais, on nous parle d'intelligence artificielle à tout bout de champ et d'ailleurs maintenant vendre des jouets connectés c'est plus efficace si j'aime en dire qu'ils ont été développés avec un peu d'intelligence artificielle même si ça n'a aucun fondement. Dites-nous dans les commentaires ou individuellement ce que vous avez pensé de ce petit échange sur l'intelligence artificielle entre Mark Zuckerberg et Elon Musk et quelque part un petit peu entre Guillaume et moi sur tous les trucs qu'on a abordés. Ça peut être intéressant d'avoir vos retours. On passe à une rubrique en bref. Déjà un petit retour sur une fuite de données. J'ai vu passer ça pour ma part en tout cas chez Corben, sur son blog, où il revient sur cette fuite de données qui a eu lieu en Suède. En 2015 et qui a été décelé en 2016 et qui a fait l'objet d'une enquête en janvier 2017. Grosso modo, c'est l'Agence suédoise du transport, qui est une entité qui dépend du gouvernement suédois, qui avait envoyé plein de données sur, notamment sa base de données de fonctionnement pour les transports sur le cloud d'IBM. Et donc, voilà, il y avait plein d'infos là-dessus sur tous les véhicules utilisés dans le pays par les gens, mais aussi par les militaires, par la police et même par les personnes placées sous le régime de la protection des témoins. On s'imagine tout ce qu'on peut faire de ce genre de choses. Et un mail a été envoyé en clair avec la base qui n'a pas été nettoyée des données sensibles à des professionnels du marketing qui parlaient de vendre des données par les sociétés d'aspirateurs robots à des marketeurs. Là, on était dedans. Hein. L'idée, c'était de transmettre cette base à la vente à des marketeurs. C'était d'ailleurs un corbeau. C'est vrai que ça m'a fait bondir. C'est vrai que c'est dégueulasse ce type de démarche, mais c'est le cas aussi en France puisque on a les données personnelles fournies dans le cadre de l'édition des cartes grises qui sont vendues à des sociétés, ce qui est assez édifiant. Il faudra d'ailleurs que je creuse un peu cet aspect-là, mais grosso modo tout ça pour dire que ces données ont fuité et on commence à avoir une idée assez claire de ce qu'on pouvait en interpréter, notamment le poids maximum supporté par toutes les routes et tous les ponts du pays. Je vous laisse imaginer en temps de guerre ce que ça peut donner. Le nom et l'adresse des pilotes de combat de l'armée de l'air suédoise. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup, mais enfin bon, en tout cas, on peut savoir qui c'est. Le nom, photo et adresse de tous ceux qui sont enregistrés dans un fichier de police. J'en passe, c'est des meilleurs, ce qui est quand même assez flippant. À terminer, bien entendu, par le type, le modèle, le poids et les défaillances de tous les véhicules gouvernementaux et militaires. Est-ce que ça nécessite un commentaire, Guillaume ?
Écoute, pas vraiment. Ou alors peut-être que Elon Musk considérait que l'intelligence artificielle est un risque fondamental pour l'existence même de notre civilisation. Écoute, il semblerait que la stupidité, peut-être même devant le réchauffement climatique, soit un bien plus grand danger.
C'est vrai. Absolument. Ouais, finalement, l'intelligence pas artificielle, quand elle est en manque, ça fait beaucoup de mal aussi. Un petit mot sur un live Facebook qui a eu lieu, qui a eu une audience assez incroyable ces derniers jours. Un live Facebook qui a été pas mal consulté, qui en fait n'était pas vraiment un live Facebook, mais c'était un gif qui tournait en boucle, qui représentait la formation d'une tornade. Donc c'est un vrai gif, d'une vraie formation de tornade, mais qui avait été filmé il y a de ça très très longtemps. Ça a été reconnu d'ailleurs par les chasseurs de tornades comme étant quelque chose qu'ils avaient enregistré en 2016. Et là, c'est simplement un gif qui a été diffusé en live sur Facebook et qui a berné tout un paquet de spectateurs. Ça laisse songeur quand même sur la capacité de tromperie qu'on peut avoir sur ce type de réseau social. Il y en a eu d'autres, des lives mensongers. Il y a notamment eu des lives de contenu prétendument filmé depuis l'espace, ou d'ailleurs des choses vachement moins rigolotes, mais des tentatives de suicide. On tombe quand même un petit peu sur Black Mirror, Guillaume, avec ce type de dispositif. Est-ce que ça conforte dans la perception que tu peux avoir des réseaux sociaux, ou est-ce que tu penses qu'il y a, quelque chose de plus qui se joue dans ces phénomènes de live sur Facebook?
Quelque chose de plus que quoi que la connerie naturelle? Non, ouais. Je sais pas. Le truc, c'est que ça c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Hein. Enfin, tu vois, là, moi, ce qui me laisse vraiment songeur, c'est la facilité avec laquelle les gens se sont laissés berner par un GIF animé. Un GIF animé, ça boucle, tu vois, mais ça boucle vite en plus. Hein. Oui, il est bien fait, mais enfin, je sais pas, il y a rien d'autre qui bouge, si tu veux. C'est quand même, tu vois, tu le regardes pendant, je sais pas, style 2 minutes, tu te dis, mais... c'est un live, ça?
Tu vois, le live va durer 4 heures. Et moi, je pense, si tu veux, qu'il y a énormément de lives, surtout quand il n'y a pas de discussion. À la limite, il y a des lives de prise de parole, de politique durant les événements tels que les présidentiels qui peuvent être suivis sur une bonne tranche. Mais j'ai la conviction de penser que ce type de live, en gros, sont regardés 20 secondes grand max par les gens, et après ils coupent, et il y a d'autres personnes qui viennent dessus parce qu'il y a le phénomène de l'algorithme de viralité qui fait que en gros les amis vont venir les voir aussi. Et quand on dit que le live a été vu pendant 4 heures, je ne pense pas, j'ai pas la conviction que les personnes sont restées 4 heures à regarder la vidéo. Ils sont restés de toute façon trop longtemps. Moi, je me serais peut-être fait berner 20 secondes à regarder ça et à penser que c'était la formation d'un ouragan en live. Et j'aurais fermé, tu vois, la vidéo. Je pense qu'au bout de 20 secondes, ça t'intéresse plus forcément. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi cet aspect-là, qui est de dire, bah, finalement, voilà, un live de tornade, ça se regarde 20 secondes et t'es subjugué par le phénomène qui est quand même assez impressionnant sur le plan climatique, puis tu quittes. Tu vois ce que je veux dire?
Bah, complètement. Mais donc, du coup, comme disait Elon Musk, c'est vrai qu'une intelligence artificielle qui aurait la main sur son compte Facebook, bah, un compte Facebook, ça lui suffirait pour détruire l'humanité, quoi.
Ouais, ouais, ça peut faire des ravages. Je notais d'ailleurs dans la façon de l'indiquer, un revival. Bon, mon image était pas très très bonne, mais d'Orson Welles et de la guerre des mondes, puisque je me disais, on pourrait très bien créer des sentiments de panique tels que ceux qu'avait créé l'émission de radio de la guerre des mondes, qui est bien connu, hein, d'Orson Welles. Et d'ailleurs, c'était l'occasion pour moi de rappeler le fait que c'était pas vrai du tout, hein, qu'il n'y avait pas eu des émeutes, qu'il n'y avait pas eu des bouchons, qu'il n'y avait pas eu des gens qui avaient tenté de fuir de manière massive. Je vous ai remis le lien vers l'article de Slate qui parle de ça, qui décrit très très bien le sujet. En gros, il y avait un problème de conflit de la presse. À l'époque, la radio prenait un petit peu plus de place, et les journaux considéraient que la radio était leurs ennemis, et donc il y avait un peu grossi le sujet, et c'est resté un petit peu comme une croyance populaire, le fait qu'il y avait eu des déplacements de foule, etc. Alors, c'est pas le cas du tout.
Mais il n'y a pas un épisode de Scepticisme scientifique qui en parle?
Oui, c'est bien possible. Oui, absolument. De toute façon, si vous... Alors, il y a deux choses dans cet épisode que vous aurez retenu. Je pense, si vous n'avez pas écouté la chronique des composants, et en particulier la chronique des composants numéro 25 sur le deep learning, faut le faire. Il faut écouter cet épisode. Et si vous n'écoutez pas encore Scepticisme scientifique, il faut aller l'écouter. Alors, pas tous les épisodes, vous n'êtes pas obligés. Il y en a beaucoup. Mais, notamment, si vous retrouvez des épisodes qui parlent de ce sujet-là, n'hésitez pas. Oui, ça me dit quelque chose, Guillaume. T'as raison. Déplacement de foule, il y en a eu beaucoup du côté de ceux qui utilisaient Firefox, qui sont a priori plus aussi nombreux qu'avant. Il y a des statistiques et des remontées, hein, du fait que Firefox n'a clairement plus le vent en poupe. Il a perdu de son panache, si vous avez identifié l'espèce d'embryon de jeu de mots que j'ai voulu faire là-dessus, mais il disparaît. Et il y a des retours qui sont assez flippants de la part des personnes qui sont derrière Firefox, qui disent que un des principaux problèmes, et on peut tout à fait le comprendre, de Firefox, c'est de se retrouver face à des services aussi puissants et aussi omniprésents que ceux de Google, qui vantent de manière systématique l'usage de Chrome. Vous pourrez aller cliquer sur le lien dans les notes de l'émission pour aller voir l'article, et vous verrez les copies d'écran qui, évidemment, toutes mises côte à côte, vous font, si c'était pas déjà le cas, ouvrir les yeux sur la réalité de cette surpuissance de Google par rapport à leurs services et de la capacité qu'ils ont d'afficher Chrome en permanence. Et en gros, l'idée, c'est de se dire que face à ça, c'est un peu peine perdue, et c'est un peu triste, mais il semblerait que Firefox soit pas voué à un bel avenir. Tu utilises Firefox, Guillaume, et surtout, est-ce que tu partages cette analyse de dire que face à Chrome, le rouleau compresseur de la médiatisation déguisée des navigateurs fait qu'il n'y a pas de place pour un acteur autre que Chrome?
J'espère que si. Moi, j'espère bien que si. C'est vrai qu'il a perdu des parts de marché. Il en a perdu à peu près 20%. c'est beaucoup, et ça risque de pas vraiment se... Il disait que ça risque de pas vraiment s'arranger parce que finalement, même si Firefox est bon d'un point de vue technique, et c'est vrai qu'il s'est amélioré d'un point de vue technique, moi, je, pour rien vous cacher, moi, j'ai arrêté d'utiliser à un moment parce que je le trouvais plus lent, tout simplement, que tous les autres. Et donc, je suis passé sur, sur Chrome un peu, puis sur Opera, et je suis resté sur Opera, et du coup, j'utilise Opera un petit peu partout. Voilà. Je sais que je suis un des rares en France à faire ça, peut-être, mais moi, je vous conseille d'essayer Opera. Il est très bien, il est rapide, il a des extensions, il est très bien.
Bref. Pas pensé dire ça d'ailleurs, il fut un temps, mais ça fait déjà quelques temps que j'avais pu tester Opera. Et il est resté dans certains usages de mon côté. C'est un navigateur que je conserve.
Voilà, il est pas mal. Et puis bon, voilà, donc grosso modo, d'après ce que dit l'ingénieur, Firefox a un petit peu rattrapé son retard. Mais c'est peine perdue parce que le problème vient plus de là, quoi. Le problème vient du fait qu'effectivement, il y a une surreprésentation de Chrome un petit peu partout. Bon, ça me fait un peu de peine quand on me dit qu'un Mozilla va disparaître, parce que voilà, moi je suis pour la pluralité, c'est bien qu'il y ait plus de choix, quoi. Mais bon, je me dis aussi que oui, c'est vrai, il y a une omniprésence comme ça médiatique de Chrome, c'est vrai. Mais et alors ? Enfin, moi, je l'ai pas installé, quoi. Enfin, si je l'ai installé sur certains PC, quand il y a des trucs qui fonctionnaient pas sous Opera, parce que malheureusement ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Mais au jour le jour, j'utilise Opera et je m'en porte très bien. Donc si vous avez envie d'utiliser autre chose, faites-le. Je sais pas quoi, un bandeau, ça se ferme, on s'en fout. Hein. Mmh. Vous voulez pas installer Chrome ? Non, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Ouais, je comprends. Non, c'est indéniable. Firefox, il continue d'ailleurs à évoluer un petit peu, notamment sur la partie mobile. Il y a des modes nuit, lecteurs de QR code qui arrivent. Bon,
absolument. Et d'ailleurs, il est pas mal du tout. Enfin, moi, je l'ai réinstallé sur mon nouveau téléphone. Mmh. Et, je trouve qu'il est un poil plus long que Opera. Mais, il a des fonctionnalités en plus. Il a les extensions et tout. Donc, bon, je l'ai gardé.
Est-ce qu'on est capable vraiment? Ouais. Pardon, j'ai peur de relancer un sous-débat. Est-ce qu'on est vraiment capable de percevoir la différence de vitesse entre des navigateurs? Parce que quand on fait des benchmarks, on voit qu'il y a des différences d'affichage de millisecondes, enfin tu vois, dans les graphes. Mais moi, par exemple, quand tu lances une série d'onglets, quand tu as des extensions, que ça rame, etc., ça je peux comprendre. Mais est-ce qu'on peut vraiment être, nous, humains, capables de dire ce navigateur va plus vite qu'un autre? Je parle pas encore une fois du comportement du logiciel qui peut effectivement être plus ou moins lourd en termes de ressources. On a connu Chrome qui suçait toutes les ressources d'un ordinateur. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est vraiment plus rapide à l'affichage des pages web selon toi?
Oui, tout à fait. Le truc, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression que ça se voit sur les machines qui sont les moins puissantes, quoi. Hein, bien sûr. À l'époque, j'avais viré Firefox parce que j'avais un netbook, tu sais, un truc pas très très puissant, une petite tablette machin, là, et je voyais la différence entre Firefox et Opera, clairement. Et là, sur mon téléphone mobile, bon, qui est correct, enfin qui est une puissance tout à fait correcte, hein, quand je lance une page, tu vois, je reçois un truc pas newsletter par mail, je double-clique, ben le temps que j'ai la page affichée et la barre terminée, tu vois, de chargement terminée sur Opera, ben ça va un tout petit peu plus vite. Pas forcément toujours, mais en général, j'ai l'impression que ça va un tout petit peu plus vite. C'est pas rédhibitoire, hein, attention.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est quand même pas. Moi, je serais curieux, parce que j'ai jamais vu passer, et si jamais c'est le cas, surtout, envoyez-moi ces liens, j'ai jamais vu d'études d'utilisateurs, mais à l'aveugle, tu sais, des navigateurs. Je sais pas si c'est bien possible, d'ailleurs, hein, mais tu sais, j'adorerais pouvoir me dire, tiens, j'utilise deux navigateurs différents dans des conditions similaires, pour des besoins similaires, et je ne sais pas lequel j'utilise, puisqu'ils ont été dépouillés de leur interface, et je charge des pages et je dis quel est celui qui me paraît aller le plus vite. Je suis persuadé que la différence de vitesse perçue par les humains serait ridicule si on dépouillait, et je suis sûr que le marketing, la puissance de marque que peut avoir Chrome par rapport à toute une frange de la population ou d'autres marques. Par exemple, je suis persuadé que tu mets un Chrome avec une icône de Safari à plein de fanboys Apple, je suis certain qu'ils vont te dire que c'est Safari parce qu'il va très bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas s'il y a eu des études.
Ah, mais c'est super intéressant parce que ça, il faudra faire des expériences en double aveugle et voir s'il y a un effet placebo du navigateur.
Moi, je suis sûr que l'icône contribue à la perception de la vitesse d'un navigateur. Et je suis sûr d'ailleurs que Opera, l'idée qu'on en a, le nom, l'icône, etc., fait que je sais pas si c'est facile pour eux de percer, tu vois, par exemple.
C'est possible. Peut-être pour moi, c'est l'inverse. Je crois qu'il est plus rapide.
Voilà,
plus rapide,
dépend des gens. Ça dépend des gens, effectivement.
C'est ça.
Et je suis persuadé que tu es convaincu que Chrome est très lourd, par exemple, tu vois.
Exactement, mais c'est vrai, j'en suis convaincu. Ouais, effectivement, tout à fait.
Allez, un petit détour pour dire juste, ça fait toujours plaisir. Microsoft continue à aller très bien. Hein. C'est quelque chose qu'on commence à dire à peu près à chaque fois qu'il y a des résultats financiers. Les résultats sont très bons, notamment les activités dans le cloud qui ont tiré la croissance de 13% du chiffre d'affaires du groupe au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2017. Excellent. Par contre, il y a une petite baisse de régime sur la surface. Bon, c'est pas non plus flagrant. Mais sur un an, le chiffre d'affaires de Surface a reculé de 2%. Bon, ça ne veut pas dire non plus que c'est la fin du monde, mais c'est des choses qu'il va falloir garder du coin de l'œil. Elon Musk, lui encore, a reçu un accord de la part du gouvernement américain pour installer une ligne Hyperloop entre New York et Washington, ce qui relierait les deux villes à moins de 30 minutes au lieu de 4 heures aujourd'hui en voiture, notamment en tirant parti de l'activité de la Boring Company qui creuse des tunnels, hein, c'est une espèce de ver géant. L'objectif, c'était de créer des tunnels qui permettait de lutter contre les embouteillages en permettant d'avoir des endroits où on descend dans un tunnel avec une voiture, avec un ascenseur, et ça nous propulse à vitesse grand V à un autre endroit. C'est cool. Il était bien annoncé dès le départ que ce type de construction permettrait d'installer aussi des hyperloops. Tant mieux. Et il y aurait eu un accord du gouvernement US pour cette ligne. Alors attention, hein, c'est un accord un peu verbal, et puis personne arrive bien à interpréter quelle est la valeur de cet accord. On sait pas trop ce qu'il y a derrière. Bon. En gros, ça sent bon. C'est pas encore bien officiel, tout ça. C'est une news que tu avais préparée pour le précédent épisode et qu'on n'avait pas bien étoffé, Guillaume. On n'en avait même pas parlé, d'ailleurs. Mais de Red. Alors, on parle pas d'SFR Red, hein, de l'opérateur, qui nous décrit le smartphone de l'avenir du futur qui va tout bouleverser dans nos usages, Guillaume.
Absolument. Mais c'est, en tout cas, c'est comme ça que Red le présente. Hein. Donc, Red, c'est le fabricant de caméras haut de gamme, qui veut nous vendre un smartphone avec écran holographique, rien que ça. Donc c'est magnifique, parce que le communiqué de presse original, c'était un modèle de parodie de communiqué de presse avec tous les mots-clés possibles.
Est-ce qu'il y a un modèle dedans? J'ai pas fait gaffe.
Alors il y a holographique et multiview 2D, 3D, AR, VR, MR, image capture change forever, holographic multiview, interactive game, voilà, enfin il y a des trucs. C'est absolument magnifique.
Sourire, quoi.
Il s'appellera le Hydrogen One. Il y aura une version aluminium pour $1,195 et une version titanium pour $1,600. Et alors, la nouveauté par rapport à la dernière fois, c'est qu'il a été vu par un autre humain que les marketeurs et les ingénieurs, j'espère, de chez Red, c'est J.J. Abrams. Et J.J. Abrams a déclaré qu'il était « groundbreaking, barrier smashing, bar raising and badass ». Donc, il a été content, autrement dit. alors, bon, moi, je suis très circonspect vis-à-vis de ce truc-là, mais j'ai quand même envie de savoir ce que c'est, parce que Red, c'est quand même pas des rigolos. Ils font du bon matos, du matos pro. Et ce que je soupçonne, hein, tout simplement, c'est qu'on va avoir un smartphone haut de gamme, dual caméra, avec un écran auto-stéréoscopique, exactement comme une Nintendo 3DS. Voilà. Bon, évidemment, dit comme ça, c'est moins vendeur, forcément.
C'était pas la promesse du Fire Phone d'Amazon?
C'était la promesse de certainement d'autres téléphones, et qui se sont mangés parce que ça devait être pas terrible. Mais je crois qu'il y a eu d'autres téléphones qui ont essayé d'exploiter l'autostéroscopie. Ce que je suis curieux de voir, c'est est-ce que, parce que la 3DS elle est sortie, c'est une console de jeux vidéo, sortie il y a longtemps, tu vois, bon, voilà. Sur un smartphone à $1,500 avec la technologie actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire comme auto-stéréoscopie? Est-ce qu'on peut enfin utiliser ces écrans super 4K machin, tu vois, et les nouveaux process de fabrication pour faire une auto-stéréoscopie qui déchire la tronche? Je suis très curieux de voir, donc j'attends vraiment de voir en vrai ce que c'est que cette Hydrogen One. Et voilà, donc je voulais en parler parce que peut-être que c'est une nouvelle tendance qui va émerger, c'est-à-dire les écrans 3D.
On va savoir.
Ouais. Sans lunettes, hein, bien sûr.
Et est-ce qu'il y aura autant d'usages que pour les télés? Je ne sais pas.
Ah,
À voir, à suivre. Justement, on parle de télé, on parle de grand écran. Elle est où la démesure de la taille de l'écran complètement incroyable, Guillaume ?
C'est un écran qui est un petit peu grand, oui, effectivement. C'est une télévision LED 4K HDR qui a la particularité de faire 406 pouces. Donc, je ne sais pas combien fait la tienne, mais je pense qu'elle est celle-ci est plus grosse.
Elle fait à peu près 10 fois moins.
Elle fait, voilà, elle doit faire une quarantaine de pouces. Donc, ça fait environ 10 mètres, 10,3 mètres. Et ça sert à quoi ? Ça sert à faire des écrans de cinéma, vraiment. Du coup, ou alors pour l'instant, ça sert clairement à se la péter. Mais en fait, le véritable objectif, c'est de, c'est-à-dire, c'est vraiment de remplacer les systèmes de projection dans les cinémas par des télévisions géantes, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Samsung a la capacité de produire ce genre de truc. Moi, ça me laisse rêveur parce que j'ai toujours connu des cinémas avec des projecteurs, quoi. Tu vois, parce que c'était impensable de fabriquer un écran de cette taille, impensable. Mais aujourd'hui, plus. Aujourd'hui, on a une télévision 4K qui fait la taille d'un écran de cinéma moyen, qui est 10 fois plus lumineux, enfin qui est potentiellement 10 fois plus lumineux qu'un écran de cinéma moyen aussi, ouais, par projection, ce qui peut être très intéressant justement. Bah, tu en parlais dans le cinéma 3D puisque ça a tendance à atténuer fortement la luminosité. Bon, voilà. Du coup, est-ce que c'est juste pas le futur, quoi ? C'est-à-dire, voilà, est-ce que dans le futur, on aura peut-être plus de projection du tout ? Plus de problèmes de lampe, plus rien du tout. On aura juste une immense télé sur laquelle on projettera strictement ce qu'on veut. Voilà, y compris le dernier Call of Duty, quoi.
Oh, la classe, t'imagines ?
T'imagines la classe ?
Je vois que t'es là-dedans, la classe, ouais, j'avoue.
Et ouais.
Excellent. Ça laisse rêveur, effectivement. On est dans les annonces matériel du futur qui font rêver. On avait rêvé avec le projet ARA, avec un peu de déception quand même, hein, qui était ce projet de Google, de faire des smartphones modulaires avec des petits clips qui, sur une base de technologie magnétique, pouvaient assembler différents morceaux. Il y a un brevet qui est tombé qui laisserait imaginer que Facebook serait en train de bosser à un dispositif de ce type-là. Bon, évidemment, ce n'est que spéculation et on peut difficilement en tirer des conclusions qui vont plus loin que ça, mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des acteurs, notamment Facebook, et puis après tout, pourquoi pas, qui seraient toujours avec cette espèce d'idée de se dire le smartphone ne doit pas être un truc sous forme d'une brique figée et qui doit pouvoir évoluer, soit que ce soit pour des raisons d'évolution dans le temps ou pour des évolutions d'usage ponctuel. J'aime bien. T'aimes bien, toi, cette démarche de modularité pour un smartphone ? Ça doit te plaire, ça fait écho, je pense, à la conception que tu as de l'ordinateur qu'on peut faire évoluer et sur lequel on peut changer des composants quand on veut, non ?
Ah, mais moi, je trouve ça super. C'est effectivement, moi, j'ai encore une tour, j'aime bien fourrager dedans de temps en temps, changer des pièces. Voilà, bon, moi, ça m'éclate. Si je pouvais faire la même chose sur toutes mes machines, je serais content. Ouais. Et si je pouvais le faire sur mon téléphone, je serais très content, bien sûr. Oui. Après, bon, est-ce que, je l'avais déjà posé la question, est-ce que c'est, dans notre système économique, est-ce que ça a du sens ?
Ouais.
Est-ce que ça a un sens économiquement de faire ça, de préserver, la longévité des composants, de changer que ce qui est nécessaire. C'est super écologiquement, c'est super. En plus, économie. Enfin, pour toi, l'économie de toi-même, c'est super. Hein, tu rachètes que le composant dont tu as besoin, c'est génial. Est-ce que pour les constructeurs et pour le système, c'est le mieux ? Ça, je sais pas.
C'est l'été, on le sait tous, vous connaissez ce petit bruit, hein. Je le fais plus ou moins bien, mais c'est les moustiques, t'as une solution ?
C'est suffisamment bien, en tout cas.
T'as une solution ?
Ouais, j'ai une solution. Ce qui est extraordinaire, c'est un laser à moustiques automatique. Je ne rigole pas, ce n'est pas une blague. Intellectual Ventures a inventé le laser à moustiques automatique. C'est un laser à moustiques, donc c'est un vrai laser, avec des caméras ultra rapides qui non seulement elles peuvent surveiller dans un rayon de 100 mètres, je crois que c'est 30 mètres sur 30 mètres. Je crois que c'est une sorte de cube de 30 mètres en gros, de côté. Sur un cube de 30 mètres de côté, la machine est capable donc de non seulement de surveiller les insectes volants qui passent, mais de les identifier. Et si c'est un insecte à éliminer, s'il est sur la liste noire, il envoie le laser sur c'est un laser qui est extrêmement fin et ça dure que 25 millisecondes, mais à 25 millisecondes, il est capable de lui cramer les ailes. Et c'est terminé.
C'est idéal pour les écrans de OLED de Samsung pour les salles de ciné. Parce qu'une fois que t'as un écran qui est aussi lumineux et l'été, il peut y avoir des moustiques qui arrivent, ben, tu branches ça et ça te crame tous les moustiques. C'est génial.
Non, mais c'est idéal pour tout, pour moi, mais j'en veux un tout de suite.
Et est-ce que ça veut pas dire qu'on commence à pouvoir faire des armes laser? Attention, je spécule.
Alors, ça veut dire qu'on peut déjà sans doute faire des robots qui peuvent tuer des insectes. Qu'est-ce que c'est pas inquiétant? Non, pas du tout. Ce qui est en plus super, c'est que si tu fais ça, bah, t'as pas besoin de dépendre des produits chimiques. Si tu tues les moustiques avec des lasers, t'as pas besoin d'insecticides, donc c'est écologique.
Est-ce que t'as vu passer cette démarche, d'ailleurs, hein, qui a fait couler pas mal d'encre, parce que là encore, je pense qu'il y a eu une surinterprétation du sujet. On l'avait pas prévu dans les notes de l'émission, mais de cette filiale de Google qui a libéré des moustiques stériles de grande quantité pour justement réduire les propagations de maladies comme le chikungunya, ouais, par exemple, etc. Tu sais, ça a fait couler pas mal d'encre, ça. Je sais pas si t'as vu passer.
Oui, j'ai vu passer, effectivement. Oui, c'est une méthode classique, hein. On s'attaque au mâle, comme ça, les femelles ont plus de bébés, et puis c'est mort. Pourquoi est-ce que ça avait posé problème? C'est parce qu'ils étaient...
En gros, il y avait l'association, alors attention, c'était des commentaires Facebook, hein. Il y avait l'association entre, je vais essayer de te refaire la teneur du commentaire que j'ai vu passer, mais grosso modo, Google ferait mieux de mieux travailler ses logiciels sans piquer ma vie privée, plutôt que de jouer à l'apprenti sorcier, la nature va se rebeller tôt ou tard. Voilà, grosso modo, c'était ça, et j'y avais beaucoup de commentaires de ce type-là. Grosso modo, Google, alors que c'était pas du tout Google, mais une fille était invectivé sur le fait qu'ils s'intéressaient à des études de ce type-là, alors qu'ils ont mieux à faire, et puis ça a trop d'impact sur l'écosystème de la vie terrestre.
Ouais, je sais pas trop quel impact ça a, justement, mis à part faire... ils ont pas de substances particulières dans le corps, ces trucs, je vois pas quel danger ils représentent, en fait.
Non, mais pour eux, c'est pas bien de lutter contre l'équilibre des moustiques. S'ils sont là, ils doivent y être pour une bonne raison. Il faut pas éradiquer les moustiques, même s'ils sont responsables d'énormément de maladies qui tuent les humains, tu vois. Mais bon.
Truc, c'est qu'il faudrait, ça veut dire qu'il faudrait introduire des prédateurs des moustiques.
Même pas, en fait. Leur point de vue de ce que j'en tirais, c'était de dire qu'il fallait juste laisser vivre les moustiques, quoi.
C'était un peu ridicule. Le truc, c'est que les prédateurs des moustiques, c'est qui? C'est les oiseaux, c'est... c'est des lézards, c'est des oiseaux. S'il n'y a plus de lézards et d'oiseaux, en général, c'est parce qu'on les flingue.
C'est un peu...
Directement par la pollution, par la déforestation, par la destruction de l'environnement. Hein. Donc, s'il y a de plus... Enfin, moi, je pense qu'il y a des baisses, si tu veux, il y a des fluctuations dans les populations des différentes espèces, parce que, justement, on fout un peu la merde un peu partout aussi. Hein. Après, est-ce qu'il y a plus de moustiques à cause de ça? Ça, j'en sais rien, tu vois.
Bien sûr. Mais des effets papillons, il est fort probable qu'il y en ait, effectivement. À propos d'éradication ou de disparition d'espèces, il y a une espèce qui disparaît, Guillaume, et ce sera la fin de notre rubrique en bref.
Ouais, de toute façon, je hais les moustiques. Je peux pas être vraiment objectif si tu me parles de moustiques. Je hais les moustiques. Non, tu fais trop bien. Tu fais pas très bien, mais tu fais trop bien déjà. Tu vois, ça m'énerve. Ouais, on va conclure en étant bref. Voilà, donc Flash, 1996-2020.
Et pourquoi 2020
Flash. Parce que c'est en 2020 qu'il va mourir. Ah. Le Flash. Donc à partir de 2020, donc Adobe lui-même a fait savoir mardi 25 juillet que Flash Player donc ne sera plus ni distribué ni mis à jour à partir de l'année 2020.
Et ouais.
Et voilà, donc ça veut dire que c'est la mort programmée du plus mal aimé de tous les plugins Internet, je crois. Écoute, c'est pas un mal. Hein, de toute façon, moi, je l'utilise déjà très très peu. Il est désactivé pratiquement partout. Bon, écoute, voilà quoi.
Je me souviens d'une... Attention. Je me souviens d'une rage de dents que j'ai eue en 2005, quand j'habitais à Paris. J'étais allé voir un dentiste un peu en urgence. Et je me souviens très bien de lui. On avait discuté. Il m'avait demandé ce que je faisais dans la vie. Donc, je lui avais dit déjà à l'époque, je travaillais dans le web. Et je lui avais dit, je trouve qu'il y a vraiment des super belles technos qui arrivent, là, qui sont en train de s'installer. Il y a notamment Flash. Je trouve que c'est vraiment des chouettes choses qu'on peut faire avec. Je vous rappelle, c'était en 2005. C'était du temps de Macromedia, hein, je crois. Pas du temps de quand ça avait été racheté par Adobe. Et il me disait, ah ouais, ouais, super. Ben, moi, je regrette vraiment, ça reviendra jamais, mais je regrette l'époque du GIF animé, finalement, ce côté un peu rustique. Finalement, Flash a éradiqué ça. Je pense que ça va rester encore très longtemps. Eh bien non, monsieur le dentiste, vous verrez bien que le dernier mot ne sera pas prononcé par Flash, mais probablement par des technologies plus proches du GIF que du Flash. Enfin bon, ce sont des grandes considérations.
Des trucs de fou, hein. Tu sais que GIF est toujours là, ça, moi, ça me tue, quoi. Ouais. Tu sais que GIF, ça fait longtemps qu'il aura dû jarter, quoi, parce que le PNG est bien meilleur à tous les niveaux, mais il a un gros souci, le PNG, c'est qu'il fait pas d'animation. Et que du coup, tu peux pas mettre de chat qui pète, comme ça, tu peux pas envoyer, c'est fou, hein.
D'où les choix d'Apple qu'on avait relayés dans les précédentes émissions sur les nouveaux formats d'images et de vidéos, tels qu'ils seront d'ailleurs sur iOS. Intéressant, on va pas digresser plus que ça, on va passer au bonus. Guillaume, il y a un bonus qui m'intéresse particulièrement, que tu as noté dans les notes, dans le conducteur de cette émission. De quoi s'agit-il? Avec quoi es-tu venu dans ta besace ce soir?
Écoute, c'est un truc totalement de circonstance. En réalité, j'avais pas vraiment de... Enfin, j'aurais pu donner d'autres recos ce soir, mais finalement, un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, alors que le film lui-même est plus ancien, j'en parle, mais c'est pas du tout une nouveauté, il est sorti en 2012. Et c'est un film qui s'appelle Robot and Frank. Et je pense que c'est complètement dans le thème, puisque ça parle d'un vieux monsieur qui... Donc, il reste chez lui, mais qui a un robot, un majordome, un robot nounou, quelque part, qui s'occupe de lui, qui l'aide, donc c'est un vieux monsieur, on comprend petit à petit, si tu veux, que voilà, il a des petits problèmes cognitifs, enfin, tu vois, voilà, quoi, et finalement, c'est sa famille l'aime, hein, je veux dire, il a des enfants, tout ça, ils sont attentifs, mais ils vivent pas là. Et il est donc, voilà, c'est le robot qui prend soin de lui. Et Frank, donc, c'est un petit robot qui ressemble étrangement à un Asimo, donc qui est pas du tout un humanoïde ultra réaliste, qui est pas non plus un gros machin, tu vois, Terminator, quoi. C'est un robot tout mignon, un petit peu pato, qui possède une intelligence qui est quand même très évoluée, hein, beaucoup plus évoluée que ce qu'on peut faire maintenant, puisqu'il est capable de comprendre ce qu'il dit, de l'aider, de faire des tâches ménagères, de l'accompagner. Et il est même suffisamment intelligent pour accompagner donc cette vieille personne, non seulement dans ses tâches utilitaires quotidiennes, mais aussi plus loin, au niveau émotionnel et au niveau des sentiments que ressent son patient. Et c'est un film qui est, donc un film de science-fiction, qui est on ne peut moins spectaculaire, mais qui est tout en... D'une part, c'est un film qui est tout en subtilité, donc entre la relation entre donc non seulement donc ce monsieur, c'est son entourage et ce robot, qui prend aussi donc le parti de montrer une science-fiction qui donc n'est pas dans le spectacle, mais dans un certain réalisme et qui est post-Terminator, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment un film où le robot, de la science-fiction, le robot, sont montrés sous un jour qui est positif, qui est plus complexe et plus subtil que juste, voilà, les intelligences artificielles vont se soulever et nous écraser la tronche. Donc, c'est intéressant parce que, voilà, c'est juste un joli film, bien tourné, bien joué, assez marrant, bien réalisé et qui donne un futur possible qui est tout sauf apocalyptique.
Eh ben, écoute, alors figure-toi que ça fait plusieurs reprises. Alors, j'ai essayé de le, je vais être transparent, hein. J'ai essayé de le pirater à plusieurs reprises. Et j'ai jamais réussi à le trouver de manière piratée, de manière confortable. Je suis peut-être un très mauvais pirate, hein, et j'avais commencé à vouloir me tourner vers les plateformes légales. Et en fait, j'ai jamais relancé. J'avais vu juste le début, mais pas par désintérêt, simplement par manque de temps et de capacité à pas m'endormir pendant une période. Je pense que c'est un excellent moment là. Ta recommandation pour que je le lance là dans les jours à venir et que je finisse de le voir. J'avais dû voir 20 minutes, j'avais vu juste l'arrivée du robot, mais j'avais déjà entendu parler de ce film et ça m'avait vachement interpellé, donc merci de nous en reparler. Mais ça date d'il y a quelques années, effectivement, hein. Ça date de quand, ça, Robot and Frank?
2012.
Ouais, donc pas tant que ça, en fait, 5 ans. Merci beaucoup, Guillaume. Dans un tout autre registre et dans une toute autre dimension, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur les clichés qui ont été pris par Thomas Pesquet qui permettent tout simplement de Google Street View fier l'ISS. Vous pouvez vous balader dedans comme si vous y étiez, comme vous le faites habituellement probablement à d'autres endroits avec Google Street View. Et alors il y a plusieurs choses. D'une part, le fait que c'est quand même assez fascinant de pouvoir se balader là-dedans. On n'est pas dans de la réalité virtuelle, mais c'est quand même très satisfaisant. Je suis toujours assez bluffé de voir le mélange qu'il peut y avoir là-dedans entre un bordel sans nom de la façon dont est organisée cette station spatiale internationale, et en même temps cette espèce de précision millimétrique. C'est très paradoxal, mais c'est un bordel extrêmement bien organisé. La prochaine fois que vous avez votre collègue de travail qui vous dit « Ouais, c'est le bordel sur mon bureau, mais c'est un bordel dans lequel je me retrouve », montrez-lui ces photos-là. À mon avis, il pourra se rhabiller. De voir que il y a des trucs très, très déroutants, des petits paquets de Madeleine Bonne Maman qui traînent, etc. Enfin, c'est vraiment génial. Et puis, juste aussi pour dire que j'avais vu, je ne sais pas si on peut le revoir, mais un envoyé spécial qui était un reportage tout simplement sur les travaux, la mission de Thomas Pesquet dans l'ISS. Et ça m'arrive pas souvent. J'avoue que ça m'était arrivé en regardant certains films qui m'avaient vachement touché. J'en avais parlé comme Interstellar, mais j'avais chialé. C'est la première fois que je chiale devant un envoyé spécial. L'envoyé spécial qui relatait la mission de Thomas Pesquet m'avait carrément touché. J'ai trouvé ça magnifique, poétique. Ce mec-là relève du héros, hein, de par ses capacités, de par ce qu'il a fait. Évidemment, parce qu'il est français, il y a plein d'autres héros dans d'autres pays qui font la même chose que lui. Mais j'ai trouvé la façon dont il témoignait tout ça hyper intéressante. Et il faisait des alertes, d'ailleurs, sur la façon dont on gérait la planète, puisqu'il l'a prise en photo d'une manière unique. Ça fait réfléchir, ça fait beaucoup réfléchir. En tout cas, allez jeter un petit coup d'œil à la Station Spatiale Internationale, vue de l'intérieur grâce au cliché de Thomas Pesquet. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode de Tech Café. Merci beaucoup de nous suivre et probablement de vous être abonné au podcast Tech Café. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'interpeller sur Internet?
Écoute, j'espère qu'on retrouvera Shinjuku au Bandai Namco Vert en train d'envoyer des caméras virtuelles.
T'as bien raison. C'est tout le mal qu'on te souhaite. On va t'envoyer des billets pour y aller. Merci beaucoup, Guillaume. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez un peu partout sur les réseaux sociaux et vous me retrouvez notamment dans mon streetcast, La Voix de Guillaume, une fois de temps en temps, mais de manière assez régulière. Et puis, bien entendu, dans un prochain épisode de Tech Café, je vous souhaite, si on n'a pas l'occasion de refaire un épisode d'ici là, allez savoir, ça peut revenir, mais un très bon été et à très bientôt dans un prochain épisode de Ta Café. Ciao à tous.
Ciao, ciao.